temps chez moi.
Mais oui, ça me dérange pas. Je me mets là.
Oui.
Hop. Chers collègues, je vous propose qu'on reprenne pour tenir le timing et terminer à l'horaire prévu.
Merci.
Ok, merci.
Donc, on recommence presque à l'heure. Hein, non, c'est plutôt un séminaire qui se passe dans les règles. Donc, je vous présente nos intervenants, puisqu'on va discuter de ce qu'on fait d'un approfondissement de la question de la recherche sous la forme de la gestion partagée, conjointe, convergente, parfois contradictoire, des unités de recherche avant que la Cour des comptes fasse le contrôle qui a été annoncé ce matin sur les UMR. Donc, je vous présente nos intervenants et intervenantes. Bon, d'abord, Camille Chaudonneret, qui est déléguée régionale INSERM, je me souviens jamais, excusez-moi, du nom de la délégation.
Paris-Île-de-France, Centre-Est.
Centre-Est, Paris-Île-de-France, qui regroupe notamment l'UPEC. Jérôme Paret, donc, qui va ouvrir le bal des mixités, délégation régionale CNRS, DGS d'université, qui était donc délégué régional
à Grenoble, du CNRS à Grenoble.
À Grenoble, et maintenant qui est DGS de l'université Grenoble-Alpes. Pascal Aimé, qui a été, on l'a oublié, DGS d'université et délégué régional aussi du CNRS, et qui maintenant est en charge, vous le savez tous, de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'inspection générale. Laurent Barbieri, qui lui aussi a été DGS et qui maintenant est délégué régional
Rhône-Auvergne.
Je bute toujours parce que j'ai du mal à mémoriser tous les noms. Et puis Michel Eddy, qui a eu de nombreuses fonctions, et on y reviendra dans la recherche en France, qui a été notamment DG à l'INRAE et dernièrement PDG du CIRAD, donc d'un EPIC. Hein, il a fait EPST, EPIC et administration centrale. Et puis surtout, bon, qui a peut-être un regard un peu décalé et historique sur les évolutions du système de la gestion de la recherche dans notre pays. Alors, je voulais qu'on commence. Hein, on a à peu près 2 heures et normalement, ça permet d'approfondir quand même pas mal les choses. Et c'est pour cela qu'on avait invité Pascal Aimé, parce qu'il y a eu un rapport de l'inspection générale sur les DGS et qui aborde en particulier le problème du rapport des DGS à la gestion de la recherche dans les établissements. Donc c'est un point d'accroche peut-être aussi et de départ pour échanger avec vous sur non seulement la gestion de la recherche mais sur le métier de DGS. Donc Pascal, à toi de jouer, on se tutoie, hein, je suis désolé, mais depuis le temps.
On va pas faire comme si. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, ravi de retrouver un certain nombre d'entre vous, même si y a beaucoup de visages nouveaux. Vous m'entendez pas ? Si, c'est bon. Je voulais peut-être recadrer un petit peu la discussion et de cette manière-là mieux reposer la question du rôle des DGS dans le sujet qui nous occupe cet après-midi. Première chose à dire en introduction, c'est un sujet récurrent. L'IG y a consacré au moins 4 rapports sur les 15 dernières années. Pour la petite histoire, c'est même mon premier rapport en 2008 quand je suis arrivé sur l'IG que d'avoir commis un écrit sur la simplification de la gestion des unités de recherche. Et je dois dire, pratiquement en ajoutant malheureusement, que si je devais le réécrire aujourd'hui, je ne changerais pratiquement rien. Alors c'est du coup un exemple ou la démonstration que nous avons devant nous un sujet complexe qui est à la croisée d'un certain nombre de difficultés objectives que je peux peut-être rappeler très très rapidement. Le premier, c'est évidemment une forte charge symbolique des relations université-organismes de recherche qui résulte d'un certain nombre de choix, ou peut-être devrais-je dire d'absence de choix sur l'organisation et la structuration du système. C'est évidemment un sujet qui est au centre de l'impact de la gestion, de la valorisation, dont on oublie peut-être un peu parfois l'importance. Il suffit simplement de regarder ce qui figurait dans les délégations globales de gestion pour et notamment la liste des exceptions qui figuraient, et on y retrouvait évidemment tout ce qui tournait autour de ce sujet. C'est évidemment un sujet qui est très dépendant d'un certain nombre de contraintes techniques. J'évoquerai simplement la question des systèmes d'information que l'on ne parvient objectivement pas à régler, même s'il se passe des choses. Mais enfin, globalement, les applications dont je rêvais quand j'étais DGS, j'ose même plus dire quand, je pense que vous les attendez toujours. Donc voilà. Et puis des différences réglementaires. Et là, peut-être, si je dois donner un point plus positif, je trouve que on a progressé sur ce sujet-là et que les différences s'estompent. Et puis, évidemment, deux derniers points, c'est un sujet stratégique pour l'efficacité de l'activité des laboratoires, mais qui pour moi pose deux sujets. Le premier, c'est l'attitude que je qualifierais pour le moins d'un peu ambiguë des directeurs de labo sur ce sujet, qui d'un côté dénoncent la complexité et qui de l'autre sont passés maîtres dans l'art d'optimiser le dumping sous toutes ses formes. Et puis évidemment la question de la compétence de gestion et de la manière d'appréhender les questions de gestion de la part des équipes administratives et politiques universitaires. Et puis, comme j'essaie de distribuer un peu des bons points à tout le monde, évidemment, je ne peux pas ne pas citer l'absence de continuité dans les politiques publiques. À un moment donné, les délégations globales de gestion sont devenues l'alpha et l'oméga du sujet. Aujourd'hui, c'est un sujet moins prégnant. Et donc, tout le monde sait que si l'État ne maintient pas une certaine forme de pression sur la structuration d'un système et change de priorité tous les 18 mois, eh bien, il y a peu de chances que les établissements s'en emparent totalement. Et du coup, pour moi, le sujet que nous traitons aujourd'hui dépend essentiellement de deux questions. La première qui relève des pouvoirs publics, la deuxième qui relève des universités et des établissements. Celle qui relève des pouvoirs publics, finalement, c'est un choix très simple à énoncer, sans doute beaucoup plus compliqué à trancher. Est-ce qu'aujourd'hui, on opte pour une politique d'optimisation de l'organisation actuelle, ou est-ce que l'on opte pour une évolution profonde de son organisation? Voilà, donc, de manière plus triviale, est-ce qu'on choisit la politique de l'emplâtre sur la jambe de bois, ou est-ce qu'on repose un certain nombre de questions et qu'on essaye de mettre en ligne différents éléments de politique publique avec les dispositifs qui sont censés en assurer le fonctionnement? Et puis la deuxième question qui est plutôt à l'adresse des établissements d'enseignement supérieur et notamment des DGS et de leurs équipes, sont-ils prêts vraiment à assumer de nouvelles responsabilités, alors même que le système de gestion de la recherche ne cesse de se complexifier, IDEX, ICIT, ANR, Europe, dispositifs de la LPR, etc., etc. Et c'est peut-être à cette occasion-là qu'il faut que j'évoque ce que nous avons produit il y a un an maintenant dans le rapport consacré à l'encadrement de l'enseignement supérieur. Et je vais donc rappeler un certain nombre de chiffres, non pas pour stigmatiser les personnes qui sont en charge de ces responsabilités, mais d'abord pour vous remercier d'avoir répondu avec franchise au questionnaire qui vous a été adressé et qui permet de dresser et d'objectiver ce qui est peut-être pas la réalité, mais ce qui est à minima votre perception collective de la réalité. Et là, je voudrais juste rappeler quelques chiffres. Je vais essayer de ne pas être trop long. 20% des DGS se disent ou se disaient il y a un an mal à l'aise sur les questions comptabilité-finance. 1 sur 5 se dit mal à l'aise sur les questions de comptabilité-finance. 65% d'entre eux se disent peu armés en matière de recherche. Les deux tiers. Un seul DGS déclarait participer à la commission recherche de son établissement. Peut-être plus préoccupant d'une certaine manière, 77% des DGS qui jugent leur université facultaire considéraient ne pas avoir de responsabilité, de relations et de responsabilités hiérarchiques vis-à-vis des responsables administratifs de composantes. Alors vous me direz, ça pourrait être logique dans le cadre d'une université facultaire, mais 43% des DGS qui considéraient qu'ils étaient dans une université centralisée étaient du même avis. Voilà. Et puis, surtout, globalement, 88% des DGS considéraient, il y a un an, que les responsables administratifs des unités de recherche n'étaient pas placés sous leur autorité. C'est compliqué de porter la modernisation d'une organisation, l'amélioration de la qualité d'un service quand on a ce constat et cette perception, qui encore une fois n'est pas celle de l'IG, c'est votre perception. Je rappellerai pas que ces éléments pourtant figurent dans le référentiel. Bon, le référentiel, c'est un référentiel, mais évidemment. Le fait que la majorité des DGS se sentent extérieurs au pilotage administratif des unités de recherche, c'est quand même un vrai sujet. C'est quand même, quelque part, un abandon de responsabilité qui a pour conséquence de tenir les DGS à l'écart d'un certain nombre d'enjeux qui sont majeurs. Et c'est pour moi la question principale. Moi, j'ai toujours considéré que si la recherche au sens politique scientifique, c'était le domaine réservé des enseignants-chercheurs et des chercheurs, la gestion des activités de recherche, c'est évidemment un domaine de compétences partagées entre les uns et les autres. Et du coup, pour conclure sur ces éléments-là, parce qu'on verra peut-être les éléments prospectifs plus tard, pour que le système change significativement et gagne en efficience et en efficacité, et que, disons-le clairement, le rôle des établissements d'enseignement supérieur augmente en matière de gestion de la recherche et des unités de recherche, les établissements, les staffs, les équipes sont-elles prêts à faire bouger un certain nombre de choses? Par exemple, alors je vais faire un petit peu de provocation parce que... La période post-pause méridienne est parfois favorable à une forme, non pas d'assoupissement, mais de laisser aller. Les établissements...
Il y a peut-être un ou une future ministre dans la salle, on ne sait jamais. Donc.
Alors là, je ne suis pas très bien. Les établissements sont-ils prêts, les établissements d'enseignement supérieur, sont-ils prêts à faire évoluer un certain nombre de procédures de gestion? Je pourrais en citer beaucoup. Je me contenterai d'évoquer celle des périodes de fermeture des établissements et des services. Sont-ils prêts à assumer une forme d'obsession de la qualité du service rendu au labo? Parce que je pense que si aujourd'hui quelque chose qui est bien partagé au sein des organismes de recherche, c'est vraiment cette volonté à tous les niveaux des établissements de considérer qu'ils ont une priorité, s'agissant des personnels d'appui et de soutien, c'est de faciliter le travail des chercheurs. On sait que dans les universités, le contexte est un peu différent et que la recherche n'est pas le seul domaine, bien évidemment, dans lequel les services doivent s'engager. Mais moi, j'ai toujours été un peu quelque part gêné de défendre la position de l'augmentation, de la progression, de l'investissement des équipes universitaires et dans ce domaine, une progression de l'autonomie des universités dans ce domaine-là, tout en faisant le constat que pendant des années, je ne vais pas parler du présent, mais pendant des années, objectivement, et j'ai pu le vérifier lorsque j'étais délégué régional du CNRS, la qualité du service rendu en la matière par les organismes et leurs équipes était supérieure à celle que les universités, compte tenu du contexte qui était le leur, étaient capables de faire. Voilà, donc, le système ne bougera que s'il y a des grands choix de politique publique qui sont faits, mais également s'il y a un certain nombre de choses qui changent dans les équilibres au sein des établissements.
Merci Pascal. Ça rejoint un peu ce qui a été dit par Philippe Rousselot ce matin sur la balle est dans le camp des universités. On ne peut pas sans arrêt invoquer d'autres mannes. Donc On va quand même aborder, du coup, dans le prolongement de ce que dit Pascal Aimé, la question de non pas de l'évolution profonde dans un premier temps, mais de l'optimisation, c'est-à-dire au bénéfice des chercheurs, parce que c'est comme pour la formation, c'est d'abord au bénéfice des étudiants, la recherche, c'est au bénéfice des chercheurs. Alors là, j'aimerais avoir justement le regard croisé hein, de ce double mouvement entre Laurent, Jérôme, et aussi Camille Chaudendré, hein, qui a été à l'université Sorbonne-Paris-Cité. Donc voir un peu comment vous percevez ça, au-delà des jugements sur la qualité, etc., mais sur l'organisation du système et les solutions qui peuvent être apportées. Bah, Jérôme prend le micro, donc.
Oui, tout à fait. Bah, je trouve que ce qui a été dit ce matin à un moment était très intéressant, c'est-à-dire que l'UMR, ça n'existe pas. C'est un objet qui n'a pas d'existence juridique et ça ne fonctionne que par des conventions qu'on arrive à signer avec souvent beaucoup de retard, que quand on arrive à se mettre d'accord. Donc ça ne peut fonctionner que si on arrive à trouver des convergences, des principes communs. Et il existe effectivement pas mal de situations où on n'y arrive pas. La question de la gestion de la valorisation, effectivement, c'est un point d'achoppement très fréquent. La question de qui gère les contrats de recherche et avec des prélèvements d'un montant déterminé aussi sont des enjeux de discussion très forts. Alors là-dedans, il y a de la responsabilité des universités, des organismes, un petit peu aussi de la tutelle, parce que finalement, quand dans nos contrats pluriannuels ou contrats d'objectifs respectifs, on a comme indicateur le taux de progression du nombre de contrats européens ou le nombre de dépôts de brevets, vu que c'est les inventions ou les activités de recherche émane d'unités communes, et à un moment, il faut se décider sur qui dépose le projet. Et donc ça, déjà, si le ministère nous aidait, alors je pense que dans l'intention, c'est tout à fait possible, mais on arrive à la difficulté des systèmes d'information qui ne le permettent pas nécessairement. Bon, bah, admettons que cet obstacle-là soit dépassé. Voilà, déjà, avoir des objectifs peut-être communs permettrait de lisser beaucoup de difficultés. Après, la question des taux de prélèvement...
Ce qui veut dire quand même que la question des objectifs communs n'est pas acquise.
Elle peut... alors, localement, dans des sites... Alors, sur le site grenoblois que je connais très bien, à la fois du côté du CNRS et maintenant du côté de l'université, je pense que un des facteurs de réussite de ce site-là, c'est d'avoir réussi à converger sur des objectifs communs, qui fait qu'un certain nombre de débats identitaires à forte charge symbolique ont été évacués. Et où maintenant, on est vraiment sur du pragmatisme. Globalement, de façon commune sur le site, combien de RC on a réussi à aller chercher cette année et comment, dans le cadre de notre politique de recherche commune, on arrive à développer une stratégie. Ça, c'est effectivement la capacité à construire et à porter ensemble une politique de recherche commune partagée. Ça, c'est vraiment très important. Et c'est ce qui permet d'ailleurs qu'on soit arrivé à quand même un accord sur les taux de prélèvement, sur les modalités de gestion de la propriété intellectuelle. Et donc, à titre d'exemple, quelque chose dont on avait discuté ensemble en amont de cette table ronde, aujourd'hui, le législateur a voulu, pour permettre plus d'agilité dans le transfert de l'innovation vers les entreprises, faire en sorte que chaque unité de recherche ait un mandataire unique. On a essayé de démontrer sur le site de Grenoble que ce n'était pas la seule solution. Et on a construit une instance, un comité qui regroupe tous les organismes de recherche du site et tous les établissements d'enseignement supérieur, qui se réunit tous les 15 jours et qui distribue les mandats en fonction de la pertinence, en fonction de l'équipe, et qui atteint l'objectif de réactivité sans passer par une contrainte réglementaire. Donc quand on veut et qu'on arrive à se mettre d'accord...
Une précision, ça intègre le CEA ?
Oui, tout à fait.
Non, mais c'est un...
Alors, sachant que bon, il y a une petite subtilité sur le CEA, c'est que le CEA, il y a plusieurs directions. Il y a la direction de la recherche fondamentale, donc qui est co-tutelle des UMR et qui finalement est un organisme de recherche tel qu'on le connaît par ailleurs sur les EPST. Puis il y a la direction de la recherche technologique, donc là qui est quelque chose à part, mais qui malgré tout est suffisamment intégré à Grenoble pour que les personnels de cette direction de la recherche technologique soit dans le corps électoral de l'université.
Donc là, à Grenoble, un fonctionnement un peu novateur avec ce comité et cette concertation, on va dire, permanente.
Et après, juste pour terminer sur les sujets sur lesquels on peut encore pas réussir tout à fait à se mettre d'accord, sur la question de la valorisation, lorsqu'on a sur un site ou au sein même d'une université des écoles d'ingénieurs, il y a une problématique propre, c'est que le mécanisme du mandataire unique peut amener à ce que l'école d'ingénieurs ne soit plus totalement identifiée comme interlocuteur sur des sujets sur lesquels c'est pas tant la perspective de revenu du transfert qui est intéressante, parce que si on regarde les choses en face, déposer un brevet, c'est comme acheter un ticket de loto. Le revenu réel, il est quand même encore à démontrer. Sauf à découvrir le taxotaire et à avoir là voilà des licornes, comme on le dit aujourd'hui. Mais par contre, pour les écoles d'ingénieurs, ce qui est extrêmement important, c'est de construire et de développer dans la durée des relations avec les entreprises, mais pas avec des fins de recherche, avec des fins de placement et d'insertion professionnelle de leurs étudiants et d'alimentation aussi pédagogique de ces formations d'ingénieurs. Et donc là, d'un point de vue identitaire, il est important pour ces établissements de pouvoir rester sur la carte.
Je passe sur, avant de donner la parole à Camille Chaudandré, à Laurent Barbieri, bon, par rapport à la vision justement croisée sur la délégation CNRS et la vision de l'université. Quand on discutait en amont, on revenait un peu sur ce que disait Pascal sur la qualité de service, quoi, sur cette culture, tout le monde fait, moi je dis c'est culture d'entreprise, enfin assez forte autour de la recherche, alors que l'université c'est multi-métier, la formation continue, l'innovation, la recherche, et j'en passe, parce qu'il y a des injonctions nouvelles tous les jours sur ce que doivent faire les universités, alors c'est un peu plus monomaniaque, tout le monde fait.
Oui, en tout cas, c'est totalement orienté. Alors, je voudrais effectivement dire que je souscris totalement, évidemment, aux propos de Pascal Aimé. Il faut donc que je réfléchisse à ne pas faire de la redite pure, évidemment, à ceux de Jérôme aussi. Donc, ce que tu évoques, c'est un petit peu des éléments de mon rapport d'étonnement de jeune délégué régional au bout d'un an et deux mois. Et effectivement, on se retrouve finalement dans une structure qui est tout entière tournée vers la recherche, vers les chercheurs. Et c'est la première chose qui est marquante. C'est très présent dans la culture de tous les collègues. Et pour vous donner un petit exemple anecdotique, on entend souvent dans les universités, quand on a des DGS, enfin vous me contredirez peut-être, mais un message disant qu'est-ce qui sont compliqués ou qu'est-ce qui nous embête, pour pas dire pire, ces enseignants-chercheurs, qu'est-ce que c'est compliqué. J'ai jamais entendu en un an et deux mois le même type de phrase de mes collègues de la délégation à l'égard des chercheurs. Jamais j'ai entendu « mais qu'est-ce qui nous casse les pieds ?» au sens large, la communauté des chercheurs. C'est pas vrai. Et au contraire, je suis surpris au quotidien de la dédication, pour faire un anglicisme, en tout cas du sens de la mission dont témoigne l'ensemble de mes collègues au CNRS et à la délégation. Donc ça, c'est vraiment, pour rester sur le périmètre de la délégation, c'est un premier sujet d'étonnement. C'est probablement pas le fait du hasard. Il y a l'attention au recrutement, à la formation, qui montre la valeur d'ensemble de la structure CNRS, qui révèle que la délégation, somme toute, n'est qu'un élément d'un ensemble qui crée la valeur. Donc, bon, très bien. Effectivement, j'observe ce que tu as rappelé, Jean-Michel. Grande qualité de gestion, sentiment d'appartenance, sens du métier, facilité, il est vrai, c'est par le double effet d'une concentration de ressources sur une thématique et sur un petit nombre de personnes. C'est plus facile quand on est délégué régional avec un certain nombre de responsabilités en délégation d'avoir 119 structures, mais au final 73 unités de recherche. On arrive à serrer tout ça. Quand on est DGS à la tête d'une grosse université intensive de recherche, c'est difficile de connaître tous les directeurs de laboratoire, d'avoir leur portable et de pouvoir les appeler. Parce que pourtant, moi, je peux faire aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier élément, et donc la valeur qualitative. Mais moi, je voudrais revenir à un préambule, en fait. C'est que avoir ces discussions-là, il ne faut pas que ça soit une manière d'opposer les organisations de recherche et les universités. Et c'est ce que Jérôme a rappelé tout à l'heure. Le préambule, c'est quoi? Est-ce que les UMR fonctionnent mal? Est-ce que la France n'est pas un grand pays de recherche? La réponse est non. Les UMR, elles fonctionnent globalement. Et les grandes UMR ont une certaine pérennité, une certaine performance, et bon, on a toujours des marges de progrès, mais fondamentalement, la vraie question qui se pose à nous, c'est comment faire en sorte, collectivement, d'arriver à améliorer la performance de la recherche, la performance des chercheurs, et augmenter notre qualité de ce point de vue-là. Donc, faire de la réflexion par la clé structurelle et se dire il y a un problème de lisibilité, de simplification, ce que dit la note. Hein. Est-ce que ce problème crée fondamentalement une perte de valeur sur la recherche, et à l'inverse, est-ce qu'en rendant les choses plus lisibles par une clé organique, on reviendrait à une problématique qui soit plus performante, c'est-à-dire est-ce que la gestion, est-ce que la façon de gérer, si on dit qu'on le confie à un opérateur et un seul de façon générale, est une création de valeur, et est une promesse de création de valeur. Moi, c'est une question à laquelle on peut évidemment avoir un avis divergent ou convergent, j'en sais rien, mais en tout cas, on peut se la poser. Et puis, moi, je suis frappé quand même à la lecture de l'ensemble des rapports. On reste très français, hein. On est dans le paradoxe de Bossuet. C'est-à-dire que, véritablement, Bossuet disait, les hommes, Dieu se moque des hommes qui chérissent les conséquences dont ils maudissent les causes, et à l'inverse. Donc, ça veut dire qu'on est tout le temps en train de vouloir traiter des problèmes qui, au final, appellent des réponses locales. Jérôme l'a très bien rappelé. Comment, localement, en fonction des contraintes locales, en fonction de l'écosystème, en fonction de la nécessité de discuter avec la collectivité, avec un grand nombre de partenaires, comment est-ce qu'on peut travailler à une bonne échelle? Et en même temps, les propositions qui sont faites sont parfois des réponses. Peut-être notre histoire française unitaire nous amène à réfléchir de façon systémique et nationale. Intégrer les chercheurs dans le corps des enseignants chercheurs. Est-ce que ça répond à une problématique selon qu'on soit à Aix-Marseille, à Strasbourg, à Clermont-Ferrand, à Angers, etc. De la même façon, pour la recherche. Donc, c'est des questions qui sont compliquées. Et voilà, sur cette problématique-là, je pense que le premier mot, en tout cas, moi, que je voudrais rappeler, c'est qu'il faut vraiment s'intéresser à la création de valeur, et tous les changements qu'on souhaite réfléchir devraient s'inspirer de ça. Est-ce que scientifiquement, on est persuadé que les modifications qu'on va faire vont apporter une valeur ajoutée à la recherche in fine, par la clé d'entrée de la gestion ou de la simplification?
Merci. Camille Chaudin, alors là, un point de vue INSERM, qui n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions que le CNRS de par l'objet et son périmètre, et puis son implantation aussi, qui est plus concentrée sur là où il y a des CHU, évidemment. Alors, Camille Chaudendray, vous, par rapport à ce que disent vos collègues?
Alors, moi, j'étais restée beaucoup sur la notion d'optimisation que j'ai entendue tout à l'heure, et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, bien entendu. Hein. Je dis souvent, je vous l'ai dit d'ailleurs quand on s'est parlé, que l'ADN des délégations régionales de l'INSERM et de toutes les fonctions support de l'INSERM, c'est le service aux chercheurs. Et il me semble que c'est un objectif commun. Enfin, vous disiez, on a parfois du mal à converger. Je crois qu'en fait, nous convergeons sur le fait que notre métier et de permettre aux laboratoires de recherche de faire le leur, et dans les meilleures conditions possibles, et alors pour l'INSERM, de favoriser bien sûr une recherche d'excellence, parce qu'il n'y a que de la recherche d'excellence à l'INSERM, et parfois aussi de la recherche de rupture, ce qui est peut-être plus compliqué à comprendre en termes de prérequis nécessaires. Et c'est d'ailleurs pour ça que, côté INSERM, nous avons fait des choix d'organisation qui nous semblent favoriser cette optimisation. Par exemple, l'INSERM est plutôt favorable à une mutualisation du montage lorsque ça se justifie, compte tenu, comme vous le disiez, sur sur l'aspect valo, lorsque le contexte local le justifie, parce que, de toute façon, un contrat de recherche obtenu par un chercheur d'une unité mixte, il est positif pour l'ensemble des tutelles du laboratoire, au-delà de la question de savoir qui va le gérer ou pas. Enfin, j'espère que nous partageons tous cette analyse. Sur le mandat de valorisation, j'ai été très intéressée par ce que vous disiez, que vous devez faire avec mon collègue Dominique Pella, j'imagine, à Grenoble. Pour moi, le sujet valo, il n'englobe pas la gestion des crédits, pas forcément en tout cas, et c'est vrai que la répartition de la gestion des crédits peut être un sujet parfois, et donc nous on est plutôt favorable à une répartition issue des conventions, parce que c'est plus simple pour tout le monde, ça permet à tout le monde d'anticiper la charge de travail, parce que pour être à l'écoute de nos chercheurs, il faut bien qu'on sache ce qu'on va avoir à faire pour eux, la charge de travail, évidemment la programmation budgétaire. Mais je crois que ces aspects financiers et valorisation ne sont pas les seuls sur lesquels on puisse parler de gestion. Alors peut-être j'ai une vision trop extensive, mais je ne crois pas avoir entendu parler de gestion des ressources humaines au sens quotidien. Et c'est vrai que sur certains aspects du type parité, le mentionne, qu'elle n'est pas tout à fait respectée. Parité, par exemple, ou lutte contre les violences sexistes et sexuelles, harcèlement moral, des choses comme ça. Il est essentiel que les tutelles d'un même laboratoire travaillent ensemble. Et nous, on est très favorables à le faire avec vous. Un constat quand même que je trouve positif et que je souhaiterais partager avec vous, peut-être qu'il n'est pas déclinable partout, mais je suis presque sûre que si. J'ai géré différents laboratoires relevant de différents périmètres universitaires et ou de regroupements. Partout, dans tous les regroupements et établissements avec lesquels je travaille, je peux vous assurer que quels que soient les désaccords institutionnels qui pouvaient exister, notamment sur la répartition de la valorisation, en tout cas dans les relations que j'entretiens avec mes collègues, alors j'en vois un là, mais je ne vois pas les autres, donc je ne sais pas s'il y en a d'autres, voilà. Jamais cela n'a empêché les administrations respectives des tutelles de travailler entre elles. Et il me semble, en tout cas au quotidien, moi en tant que déléguée régionale, c'est quelque chose à quoi je suis extrêmement vigilante. Justement, ne pas jouer, je crois que c'est Pascal Aimé qui mentionnait tout à l'heure le jeu permanent des directeurs de laboratoire. Nous, ce qu'on fait, c'est travailler pour eux, et parfois même quand eux-mêmes, ils voudraient nous faire travailler, les uns contre les autres, ce qui n'est pas du tout efficace. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement positif d'avoir ces relations de qualité, régulières, et de pouvoir monter des projets plus ou moins ambitieux. Hein. Alors, vous savez tous que parfois, notre travail au quotidien n'a rien de brillant et rien de qu'on peut vendre comme ça. Mais qu'en revanche, parfois payer aussi correctement les factures.
C'est les frais de déplacement des chercheurs.
Voilà, identifier correctement les moyens mis dans un laboratoire. Et ça fait partie des choses importantes pour que le labo puisse bien travailler. Et ça fait partie aussi des choses sur lesquelles nous avançons à l'INSERM, puisque nous avons fait le choix de prendre CIFAC à très courte échéance, ce qui permet quand même de comparer des données un peu plus facilement. Et le déploiement de dialogue aussi va nous permettre à tous d'avoir une meilleure vision des moyens consolidés des laboratoires. Et ces moyens consolidés, ils peuvent aussi chacun nous aider, chacun pour chacun de nos établissements, à attribuer des moyens en fonction de ce que nous faisons le mieux et de ce sur quoi nous avons la meilleure expertise. Pour l'INSERM, je pense que pour le CNRS, c'est pareil, expertise nationale sur des sujets scientifiques, c'est très important, y compris quand localement, l'expertise est de très grande qualité. Je crois que j'ai dit presque tout ce que j'avais écrit.
Mais de toute façon, on va y revenir, hein. On va y revenir, parce qu'on a du temps et il y a plein de questions. Alors, c'est pas notre grand témoin, mais presque Michel Eddy, quand même, qui en a vu, et surtout qui était dans le rapport en 2008 dans la commission j'en ai profité pour relire ce rapport. J'ai trouvé des choses d'une actualité désarmante, un peu ce que disait Pascal. Donc le rapport d'Aubert, Michel, tu mesures le chemin parcouru aujourd'hui et les difficultés qui demeurent visiblement dans la gestion du système au-delà des aspects de pourcentage du PIB?
Bien, écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous et merci à Jean-Michel de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Alors, c'est vrai que moi, j'ai par rapport aux autres intervenants une posture un peu différente, au point où j'en suis de ma carrière professionnelle à peu près un mois de ma mise à la retraite. Donc, je regarde plutôt en arrière et j'ai une certaine expérience de ce qui s'est passé et je me suis dit que ce qui était intéressant pour contribuer à la réflexion collective et générale, c'est justement de faire un pas de côté et un pas en arrière pour essayer de remettre en perspective ce qui a déjà été fait et voir ce qui a été réalisé et fait et ce qui reste à faire. Parce que on va dire que la question qui nous anime aujourd'hui est une vieille question. C'est une question qui est sur les tables depuis longtemps. Et puis c'est vrai que mon regard à moi, elle est aussi conditionnée et construite dans l'expérience d'une fonction à la fois de chercheur. C'est vrai que j'ai été chercheur, mais j'ai surtout été directeur général d'établissement public, un DGS de l'INRA d'abord, et puis un DGS du CIRAD et un président directeur général du CIRAD. Donc des fonctions qui ont été du côté de la stratégie, de la science et puis de l'appui. Et je voulais juste dire ici, dans cette assemblée, le CIRAD étant un objet un peu spécifique, à la marge de la constellation des organismes de l'ESR, puisque c'est un EPIC, déjà, et donc voilà, avec des caractéristiques qui sont propres, mais en plus c'est un EPIC sans agent comptable, et c'est un sujet central. Et je sais qu'en disant ça, ça peut soulever, voilà. Mais si vous voulez, on pourra en discuter après. Alors, revenons un instant sur le rapport d'Aubert, parce que il a des propriétés, ce rapport, outre le fait... Alors voilà, le fait que j'y ai contribué modestement, c'est pas tant ça l'intéressant, c'est le moment dans lequel il est produit. Et donc, il est produit effectivement en avril 2008, donc ça fait 14 ans, à la demande de la ministre Pécresse, qui est en fonction depuis un peu plus d'une année, et à la suite de la publication de deux grandes lois. La loi de 2006, dite la loi Goulard sur la recherche, hein, et la loi de 2016 sur la responsabilité des et les libertés des universités, la loi Pécresse. Et donc c'est dans ce contexte-là que ce rapport est produit. Alors, il s'intitule « Vers un partenariat renouvelé entre organismes de recherche, universités et grandes écoles ». Partenariat renouvelé, voilà. Donc nous sommes dans le renouvellement. Pendant la grève, la fonction continue. Et l'intérêt de ce rapport, pour moi, c'est que, en me remémorant les choses, c'est la première fois que le partenariat est entre organismes de recherche, universités et enseignement supérieur est analysé de manière globale et à l'échelle des institutions, et pas simplement en se focalisant sur cette composante partagée essentielle que sont les UMR. Et je vais y insister parce que la dimension institution me paraît un effet de levier dans les démarches de progrès qui ont été réalisées et sur lesquelles il faut continuer. C'est le début d'un dialogue politique et stratégique qui parle quand même beaucoup quand on le regarde et quand on lit ce rapport. On parle peu de stratégie, peu de science et beaucoup de gestion et d'appui à la recherche. Hein. Et le focus sur les thématiques, il est quand même ciblé, pour le coup, s'agissant de l'enseignement supérieur de la recherche, sur la dimension qui est en partage. On parle de recherche et de valo. On parle pas de formation. On parle pas d'une l'autre grande composante de la mission des universités, qui fait que, de mon point de vue, vous exercez un métier plus compliqué que celui qu'exercent les établissements de recherche. Vous avez une diversité d'activités à gérer qui est bien plus importante que celle que les organismes de recherche gèrent. Et la complexité, c'est en général toujours plus compliqué que la simplicité. Hein. Mais bon, il y a des fois où c'est peut-être pas vrai, mais dans mon expérience, c'est pas le cas. Et puis donc, le rapport, il fait, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait un constat critique. Le constat est critique, hein, ça va pas. Et historiquement, il se situe à ce moment-là, il fait un constat critique sur l'état du partenariat, et ce qu'il met en avant, c'est la complexité du système. Je pense que ça n'a pas vraiment changé, mais il la pointe déjà, et tout le monde le savait. Et puis, il se préoccupe, ce qui est d'ailleurs nouveau dans un rapport sur l'enseignement supérieur et la recherche, du faible impact économique de des activités de recherche. Et sur la question de la valorisation qu'on a connue et qu'on connaît encore, c'est intéressant de voir que cela est mis en avant. Dans le rapport... On touche pas aux questions d'organisation, c'est des vrais sujets qui fâchent et tout le monde les connaît, mais ils restent sous le tapis. Et donc, on parle beaucoup, pour le coup, dans un contournement subtil pour traiter des problèmes de fond sans tout à fait les évoquer, problèmes de fond qui restent et sur lesquels on pourra revenir. On parle beaucoup d'harmonisation des règles de gestion et puis des systèmes d'information. Ça, c'est la mecque des affaires, ça. Alors, les principales recommandations du rapport, qu'est-ce qu'il dit, hein? Je vous les rappelle rapidement. D'abord, il parle de déployer un partenariat global. Concept de partenariat global, et il dit en gros il faut des conventions cadres entre organismes de recherche et universités. Ce qui laisse à penser qu'à cette époque-là, il n'y en avait pas. Hein, donc c'est déjà intéressant. Et pour le coup, voilà, ça c'est un sujet qui s'est beaucoup développé, des accords entre universités et établissements. Et il pose la question de la bonne articulation de ces conventions cadres avec ce que fait l'État. Et donc, il faut que ça respecte le cadre de contractualisation globale de l'État. Toujours la même question, comment le système inclusif de contractualisation à tous les étages arrive à garder un peu de cohérence. Il pointe le fait que la constitution des UMR ne doit être mise en avant et n'a de sens que dès lors que chacun y apporte des moyens significatifs. Et qu'en aucun cas... L'UMR ne doit être la recherche d'un label. Vous vous souvenez à l'époque, tout le débat sur les unités associées et le label de qualité à travers la numérisation. Le rapport dit non, on ne devient pas UMR pour avoir un label. On devient UMR parce qu'on en a besoin dans la stratégie scientifique et parce qu'on y est investi. Elle met en avant d'ailleurs, de ce point de vue-là, pour la première fois, l'idée, et c'est un sujet qui reste, du principe de la limitation à deux tutelles. Deux tutelles par UMR, deux, un organisme de recherche et une université. C'était la première fois que c'est écrit, c'est toujours pas réglé. Il est dit que le MESRI, le ministère, doit produire des recommandations, et pas autre chose que des recommandations, sur la signature des publications dans les UMR. Ce sujet-là a un peu progressé, mais bon, voilà, il avance. En matière de valorisation et de transfert, qui est un vrai sujet, il parle de la bonne articulation à trouver entre les fonctions à exercer au niveau local et il parle au niveau local de la mise en place d'offices mutualisés de transfert de technologie. Office mutualisé de transfert de technologie, le concept a vécu, je crois, sous d'autres formes, et l'articulation avec le niveau national. Et il est dit que les établissements nationaux de recherche doivent s'associer à ces composantes locales. Vous voyez le débat aujourd'hui autour des SAT. Il parle après, on rentre dans l'ancillaire et dans la gestion, la copropriété de la propriété intellectuelle. Alors, et avec le mandataire unique, la signature unique et avec un seul mandataire. Sujet qui, certes, a progressé, mais qui est sur la table et qui, pour la première fois, est mis en avant. Harmonisation fiscale, surtout des questions de TVA. Il n'y avait pas la même règle fiscale entre les universités et puis les EPST. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui a été fait. Délégation de signature du président d'université au directeur d'unité avec la création d'unités budgétaires distinctes des UFR à l'intérieur de l'organisation d'université. À cette époque-là, dans l'organisation des universités, le président ne pouvait pas déléguer sa signature comme le faisaient les présidents et directeurs généraux d'organismes au directeur d'unité. Ces questions-là ont été réglées. Principe du mandat unique de gestion confié à l'hébergeur. Principe du mandat unique. Bon, on va faire un état des lieux. Et pour que toute cette question progresse, production d'un cahier des charges qui soit commun à l'ensemble des EPST et des universités pour définir ce que c'est que le référentiel d'une bonne gestion des UMR. Et donc, on doit définir les principes cardinaux de la bonne gestion d'une UMR. Je m'en souviens, j'ai contribué à ce petit groupe de travail. Il y avait Claude Ronceret qui était là pour l'Université Paris 6 et moi qui étais pour INRA et il y avait Alain Resclandy-Bernard pour le CNRS. Donc, voilà. Et puis, Damien, et puis Jean-Richard Sitterman qui était à la manœuvre pour la rédaction. À l'échelle de certains sites, on met en avant l'idée d'expérimenter de la mutualisation des fonctions d'appui et de support. Cette question a effectivement prospéré, mais c'est la première fois qu'on l'évoque. Et puis il y a le plan de mise en cohérence des systèmes d'information avec l'appui de la MU, alors plan qui a connu évidemment des variations. Alors, quelques commentaires sur ces recommandations 14 ans après, puisque un peu de recul permet de réfléchir. D'abord, on est frappé par le grand nombre de recommandations qui concernent le fonctionnement et le cadre de gestion pour faire avancer la qualité du partenariat. Il faut dire, et sans que ce soit vexatoire pour qui que ce soit, et parce que tout à l'heure, d'une certaine manière, ça a été évoqué par les intervenants, c'est vrai qu'à l'époque, en 2008, il y a un vrai écart dans la qualité, dans la capacité de gestion des universités et de l'EPST. Et tout le monde prend conscience que tant qu'il n'y a pas une remontée de la qualité du service délivré par les universités, l'idée d'un partage et d'une mutualisation est évidemment remise en cause, parce que personne ne voudra être géré par une université, sachant que le service est meilleur ailleurs. La stratégie et la politique scientifique restent entre les mains des opérateurs, certes, mais elles doivent s'inscrire dans le cadre d'une contractualisation qui est mise en place par l'État s'agissant des établissements d'enseignement supérieur et aussi des organismes de recherche avec des contrats d'objectifs et de moyens ou de performance, comme le disait Philippe ce matin. Mais on voit bien que cette question de l'articulation avec la contractualisation avec l'État, c'est une question toujours ouverte. Et dans le débat aujourd'hui sur plus d'autonomie pour les établissements d'enseignement supérieur, que doit devenir cette contractualisation, c'est un sujet. Il y a eu des progrès réels en matière d'harmonisation des cadres de gestion. Du côté de l'État, tout ce travail a été fait, ça a été nettoyé et on a progressé. Et puis il y a une vraie, je crois qu'on peut se le dire, il y a eu une vraie montée en compétence de la qualité de la gestion et de l'appui au sein des universités. Au regard de ce qui était la situation en 2008, on n'est plus du tout là. Et saluons, et moi je le fais de mon point de vue personnel, le fait que le passage au RCE mis en place par la loi de 2007 a évidemment déverrouillé les choses et a fait avancer la question. Et dans cette trajectoire de progrès que les universités ont réalisé, à l'évidence, les directeurs généraux des services ont dû jouer un rôle. Ça s'est pas fait tout seul, ce truc-là. Donc, vous devez être mieux que moi placé pour savoir ce qui s'est passé. La plupart des problèmes politiques qui sont évoqués de manière un peu sous-jacente, implicite ou explicite, on peut dire qu'ils restent d'actualité. Bon, la question du nombre des tutelles des UMR, débat permanent et récurrent. La délégation de gestion unique à l'hébergeur. La Cour des comptes vient de produire quelque chose d'intéressant sur le sujet et France Université s'est aussi exprimée sur l'affaire. Notre président de la République a lui-même fait des déclarations pendant la campagne électorale. La question de la valorisation avec la place et le rôle des SAT, entrer dans l'université, pas dans l'université, et est-ce que les organismes y participent? Et tout ça reste des sujets sur la table avec le serpent de mer des systèmes d'information et de gestion qui, pour le coup, après des tentatives du côté de l'AMU avec des outils spécifiques à la gestion des laboratoires, manifestement, ça a fait un flop. Et donc, je pense qu'il y a des choses vraiment sérieuses d'ailleurs à analyser dans ce flop. parce que il y avait de la mauvaise volonté au départ, certes, évidente. Après, on a tenté le coup, et peut-être que le problème est sûrement plus compliqué qu'un État rationalisateur qui veut organiser les choses dans une logique de jardin à la française ne s'est pas rendu compte que le projet était en lui-même d'une telle complexité que ça pouvait pas réussir. Mais donc, je pense que si on veut repartir sur ce sujet-là, il faut tirer des expériences et une analyse sérieuse des raisons de cet échec. Alors, comment est-ce qu'on peut continuer à progresser, de mon point de vue, et là, c'est mon opinion à moi, hein, qui n'engage que moi, dans la période que nous connaissons, parce que, évidemment, on regarde ce qui a été fait, et des choses ont été faites, et des progrès ont été réalisés, et il faut s'en féliciter, il reste encore beaucoup de choses à faire pour progresser. Pour progresser vers, je crois, un mot d'ordre que tout le monde partage aujourd'hui, c'est vers plus d'autonomie et de responsabilité des établissements d'enseignement supérieur et des universités. Il faut absolument que ça se réalise. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à avancer dans cette direction ? Moi, je crois pas qu'il existe d'alternative à la méthode du progrès incrémental. Pour le dire simplement, je crois pas au grand soir, je crois pas à la théorie de la grande réorganisation, du grand bouleversement qui d'un coup va redessiner un paysage sur le papier qui va s'appliquer d'un coup d'un seul à tout le monde et qui va faire que tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui vont se régler parce qu'on aura trouvé la bonne organisation. Si tel était le cas, on est vraiment des couillons, parce que ça fait 30 ans qu'on cherche. Hein. Et donc là, on devrait être licencié sur place depuis longtemps. Et donc, si on n'a pas arrivé à trouver la solution, c'est peut-être un peu compliqué. Donc, le progrès incrémental dans ces conditions me paraît effectivement ce qu'il faut continuer à faire en abandonnant effectivement ce fantasme de la grande réforme unificatrice et dont on voit bien qu'il y a des moments de prurie collectif au moment des élections en particulier. Ça revient sur la table. Bon, on en a rediscuté un peu. Voilà, est-ce que c'est possible ? Pascal, tu disais 2-3 trucs là-dessus. Bon, il faut réfléchir. Se concentrer, à mon avis, sur les bons leviers de progrès en mettant en avant deux choses. C'est que les bons leviers de progrès se trouvent au niveau des institutions et pas au niveau des composantes des institutions. C'est les institutions qui portent les politiques de changement. Et donc, les institutions qui portent les politiques de changement, il faut les laisser, deuxième élément central, expérimenter. Il faut qu'elles expérimentent entre elles, sur la base du volontariat, des choses qui font progresser et qui font avancer le schmilblick. Et c'est, à mon avis, comme ça, dans cette logique d'expérimentation et d'engagement volontaire des acteurs à faire des progrès, qu'on arrivera à avancer. On va pas faire avancer tout le monde de la même manière sur tous les sujets. Ça n'est pas vrai. Et je trouve que, pour le coup, dans les 15 ans qui viennent de s'écouler, et ce qui n'était pas dans le rapport d'Aubert, parce que, pour le coup, les IDEX et les ICIT et les PIA n'étaient pas encore sortis, je veux dire, à l'évidence, je considère, ça, je m'engage là-dessus, que ce qui a été fait par l'État à travers les PIA, les IDEX et les ICIT et tous les instruments qui ont été mis en place, la boîte à outils politico-institutionnels mise en place en disant « ceux qui veulent y aller, y vont et on va leur donner les moyens », c'est un truc qui a changé les choses, qui a changé la donne. Et le paysage en 15 ans, il a changé grâce à ça, pas grâce à une grande réforme qui a redessiné complètement le paysage. Il y a ce débat sur la gestion des unités de recherche qui revient. C'est un débat sérieux, mais je préférerais qu'on pose la question de... On gère les unités pourquoi ? Pour quelle capacité de pilotage ? Pour quelle capacité stratégique ? La gestion n'est qu'un moyen, elle n'est pas une finalité. Le fait d'être l'hébergeur ou le gestionnaire ne fait pas de vous un établissement stratège en matière de recherche. Pardon, les fonctions d'animation, de programmation sont des fonctions centrales. Comment on les exerce ? À l'évidence, là-dessus, il y a des progrès à faire du côté, je le pense, des établissements universitaires pour avoir une politique scientifique consistante, visible, et qui ait de l'impact sur les collectifs et sur les unités. Et puis, je crois qu'il faut vraiment s'appuyer sur les succès des ICIT et des IDEX, parce que ces ICIT et ces IDEX ont créé un cadre de partenariat aujourd'hui efficace, efficient, en rapprochant les acteurs dans lequel on peut aujourd'hui imaginer des expérimentations qu'on ne pouvait pas imaginer il y a quelques années. Et je veux juste porter témoignage d'un cas que je connais bien, le cas du CIRAD sur l'ICIT de Montpellier. Je peux vous dire, comme PDG du CIRAD, quand j'ai pris mes fonctions de PDG du CIRAD, mes relations avec les universités de Montpellier, parce qu'à l'époque il y en avait 3, et maintenant heureusement il y en a 2, mes relations en tant qu'institution avec l'université étaient à peu près réduites aux acquis. On se rencontrait 2 fois par an à des occasions festives et sympathiques, mais on ne partageait strictement rien en termes de stratégie et de politique. Aujourd'hui, grâce à la démarche mise en place dans le cadre des ICIT, et parce qu'elle a été portée et décidée par 2 présidents d'université qui ont décidé en 2015 de fusionner leurs 2 universités, Montpellier 1 et Montpellier 2, s'est enclenché une démarche de changement qui, sur le site de Montpellier, fait que le paysage a radicalement changé. Et que pour le CIRAD, aujourd'hui, EPIC sans agent comptable, travaillant en coopération avec les pays du Sud, eh bien, il n'y a pas 2 semaines sans qu'il y ait de relations directes entre les dirigeants du CIRAD et les dirigeants de l'université. Nous traitons toute une série de sujets ensemble. Le paysage a radicalement changé. Donc si ça s'est produit pour le CIRAD, ça doit bien arriver pour nous, même si je comprends que le CNRS et les universités, c'est une question plus compliquée que le CIRAD et les universités. Ça, je veux bien le reconnaître. Alors, l'État doit favoriser l'expérimentation. Et pour ça, il faut qu'il desserre la contrainte réglementaire. il faut arrêter de produire des textes. Et donc là-dessus, bon voilà, on va pas, le jardin à la française réglementaire, c'est sympathique, mais peut-être que moins de contraintes réglementaires et plus d'autonomie de responsabilité, ce serait mieux. Il faut aussi, je crois, et ça, ça a été évoqué, poursuivre notre révolution culturelle en matière de gestion publique. Et la gestion publique, c'est partout. C'est aussi dans l'enseignement supérieur, c'est aussi dans la recherche. Et je pense que ça passe chez nous par le renforcement des fonctions de pilotage et de management dans les institutions. Il faut consolider ces éléments-là. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de politique d'objectif sans politique de moyens qui tienne la route. Et donc, les fonctions d'appui et les fonctions de soutien, les fonctions dont les DGS ont la responsabilité, sont centrales dans le déploiement des stratégies. Et il faut reconnaître cette fonction-là. C'est un avantage comparatif des organisations que d'avoir des fonctions d'appui de qualité capables de délivrer de bons services. Et puis, enfin, pour terminer, moi, je crois qu'il faut vraiment renforcer ces fonctions d'appui dans le déploiement de la stratégie des opérateurs. Et de ce point de vue-là, je crois que les DGS ont un rôle central à tenir pour porter cette dimension, pour que la communauté universitaire continue à progresser. Et en menant le débat vers aussi à l'encontre de deux mots qu'il faut qu'on arrive à dépasser, le corporatisme étatique, syndicalo-étatique, et puis l'individualisme méthodologique des enseignants-chercheurs, des chercheurs qui, quand même, n'aiment pas beaucoup être encadrés, orientés, dirigés, alors que notre boulot, c'est de faire qu'on choisisse une stratégie et qu'on se donne les moyens de l'atteindre. Parce qu'à la fin, il faut délivrer des résultats. Nous sommes financés par l'impôt, par nos concitoyens, et ils ont droit d'attendre de notre part, comme responsables de l'action publique, qu'on soit capable d'être évalués et de remplir nos mandats.
Merci Michel pour ce plaidoyer. Je retiens d'abord une chose, il y a plein de choses, mais sur l'expérimentation, je vois qu'Antoine Petit a ouvert quelques possibilités, quelques portes, pour en avoir aussi discuté un peu entr'ouvertes, certains disent. Bon, après, je ne veux pas entrer dans la polémique, mais en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, la voie, si on se place du point de vue des DGS ou des délégations régionales, la convergence, c'est justement de pouvoir expérimenter sur toute une série de choses. Par exemple, la mutualisation des fonctions d'appui, est-ce qu'il y a des obstacles réglementaires ? Il me semble pas. Il me semble que là, c'est plus une volonté à la fois politique et une compréhension et une stratégie technique derrière pour la mutualisation au bénéfice des établissements et des chercheurs. Donc, il y a déjà des tas d'expérimentations qui pourraient, c'est une question, être mené, un peu comme ce qui a été fait à Grenoble sur la convergence entre organismes. Est-ce qu'on pourrait explorer cette piste très concrète de ce qui pourrait faire optimiser le système ? On va utiliser le mot, puis après on verra si on peut le faire évoluer profondément. Mais l'objet de la table ronde, c'est quand même sur l'optimisation.
Effectivement, pour témoigner encore de la situation à Grenoble. Donc à Grenoble, on est un établissement public expérimental. Et dans le cadre de cette construction-là, on a imaginé un nouveau type de structure interne à l'établissement qu'on a appelé unité de service, qui ont vocation aujourd'hui à faire travailler ensemble des services homologues des établissements. Donc les organismes de recherche à ce stade n'y participent pas. Et donc on a créé déjà deux unités de service. L'une, on parlait de, qui s'appelle Innovation and Transfer Office, en écho à ce rapport d'Aubert, et l'autre unité de service ingénierie de projet. Et en fait, c'est les personnels des directions de la recherche de l'ex-UGA, de Grenoble INP, qui travaillent ensemble pour avoir, vis-à-vis des laboratoires, une offre de services commune et transparente. Aujourd'hui, du point de vue de la construction institutionnelle de l'EPE, il était important pour nous de commencer ça juste à notre niveau, déjà pour lever un certain nombre de complexités. Aujourd'hui, effectivement, la porte est ouverte en direction des organismes de recherche. On a très bien entendu, là, effectivement, le discours d'Antoine Petit à ce sujet. Et dans les mois qui viennent, on va effectivement essayer d'aller sur ce terrain-là. Sachant que par ailleurs, en termes de compétences, dans les services qui s'occupent de transfert et d'innovation, de montage de projets, on peine à recruter et on a tout à gagner à mutualiser nos forces et travailler ensemble à un service unifié au laboratoire. Là, je pense que le témoignage de Laurent, moi je m'y retrouve complètement. J'ai passé 20 ans au CNRS. C'est une des forces exceptionnelles du CNRS d'avoir cette culture de service. Moi j'avais pour habitude de dire à mes directeurs d'unité, je suis là pour vous rendre les choses possibles tout en vous évitant de faire de trop grosses bêtises. Et ça, c'est effectivement un message que j'essaie de réinternaliser à l'université. Je pense que la situation aujourd'hui, elle est plus celle qu'on a connue il y a 10-15 ans. Et effectivement, les évolutions des établissements, des structurations de sites ont fait que les compétences se sont développées.
La convergence des réglementations.
Voilà, la convergence des réglementations. Et je pense que, au-delà, moi, de ces deux exemples concrets qu'on est en train d'expérimenter, on pourrait aller plus loin. Sur Grenoble, on fait déjà des choses communes en matière de formation permanente. Il y a quelques années, c'était pas possible parce que les budgets consacrés à la formation continue des personnels entre organismes de recherche et établissements étaient, il y avait un facteur 10 entre les deux. Aujourd'hui, l'université, en tout cas chez nous, est capable de trouver des moyens qui permettent d'avoir un partenariat avec les organismes. Je pense que sur les achats, on aurait tout intérêt à mutualiser la fonction achat. Je sais que côté CNRS, quand j'étais délégué régional, j'avais exploré cette piste-là. On était un peu contraint par les directives et la politique de la direction des achats de l'État, qui avait une vision plus par établissement. Mais je pense que dans la culture de service au laboratoire... Le laboratoire, il n'a pas besoin de savoir si c'est l'UGA, Grenoble INP ou le CNRS qui va conduire l'achat. Il a besoin d'avoir des professionnels à l'écoute de ses besoins pour que le chromatographe ou le microscope, il arrive avant-hier. C'est quand même la demande du laboratoire, l'attente du laboratoire, typiquement c'est ça. Donc voilà, moi, ça, c'est des sujets que j'aimerais beaucoup explorer dans la poursuite de ce partenariat avec...
Qui suppose des objectifs communs et partagés, et pas forcément une évolution radicale...
Et sur des sujets qui, malgré tout, peuvent être gérés à l'échelle locale. Et donc, un autre point, et ça, ça a été aussi évoqué côté INSERM, en termes RH, en matière de gestion des conflits, des risques psychosociaux, d'une thématique qui malheureusement aujourd'hui dans les universités a pris beaucoup de place, les violences sexistes et sexuelles. Voilà, comment on intervient dans une UMR quand on est sur ces sujets-là, il n'y a plus d'hébergeurs, il n'y a plus d'employeurs. Il faut réagir en même temps et rapidement. Et donc ça, il faut le travailler ensemble. Alors après, il y a la petite difficulté résiduelle qui, selon moi, fait aussi que la rénovation de ce partenariat qu'appelait le rapport de 2008, on a avancé, puis peut-être que là, maintenant, on avance un peu moins, c'est qu'il y a un moment, il y a une tension. Et moi, en tant que délégué régional qui devait négocier avec l'université pour le compte du CNRS, je l'ai vécu, entre la différenciation qui est à l'œuvre sur tous les sites et puis des organismes nationaux qui veulent quand même essayer de préserver un cadre homogène, parce que sinon, c'est eux qui internalisent la complexité. Et donc là, on a eu un exemple typique ces derniers jours où le PDG du CNRS a écrit à France Université pour dire dorénavant, on va prélever sur les contrats de recherche de telle façon, avec 9 pour l'hébergeur, 7 pour le gestionnaire et 4 pour le laboratoire. Moi, ça me convient parce que c'est ce qu'on vient de signer avec le CNRS. Donc le temps que les choses évoluent, on a le temps de voir venir. Mais voilà, cette approche un petit peu centralisatrice, je pense... ne facilite pas les choses. Donc tout ce qu'on peut faire à l'échelle locale, c'est ça qu'il faut explorer. Le reste, ma foi. Et puis, j'en termine là-dessus quand même. L'enjeu qui n'est pas du tout réglé pour moi, c'est les systèmes d'information.
Oui. Alors ça, on va y revenir dans un deuxième temps sur les systèmes d'information. On ne peut pas faire l'impasse sur cette question. On ne va pas régler le problème. Enfin, après, déjà, le naufrage de Galaxy, c'est l'occasion quand même de reprendre la question. Camille Chaudonneret, sur les questions qu'on fait très, très concrètes, où on peut avancer, on peut franchir une étape, en positif.
Alors déjà, je voulais quand même mentionner un point important, c'est qu'il y a déjà du support mutualisé aujourd'hui au niveau du laboratoire, parce que les gestionnaires de laboratoire, je suis désolée de revenir à des choses très terre-à-terre, les gestionnaires de laboratoire, en fait, de fait, font de la gestion INSERM, CNRS, université et X. Bon. Et c'est là que tout l'enjeu des systèmes d'information se pose, parce qu'effectivement, ce sont des gens à qui on demande souvent de connaître... Alors bon, les règles sont à peu près les mêmes, normalement, il peut y avoir des toutes petites variations, mais la loi est la même. Mais par contre, ils ont plusieurs logiciels de gestion. Je voulais le dire parce que ce sont des populations dont on ne perçoit pas suffisamment, je crois, l'importance stratégique au quotidien, celle des gestionnaires de labos. En termes d'autres axes de mutualisation, alors moi aussi, j'ai travaillé, là, je parle vraiment de ma délégation sur les achats. On n'a pas réussi à aboutir parce que la crise sanitaire est intervenue entre-temps et que ça a un peu mis un coup d'arrêt à ce genre de projet. Mais je n'ai pas exclu, effectivement, quand on fait de la maintenance d'autoclaves ou dans plusieurs laboratoires d'un périmètre, c'est un peu idiot qu'il y ait un marché pour Sorbonne, je crois, voilà, et un marché pour l'Inserm, par exemple. Donc on avait échangé. Ou je sais qu'il y avait à l'ENS, je vois Damien là-haut, mais c'est plus l'ENS maintenant. On avait aussi évoqué ça, et c'était, enfin, en tout cas, les institutions étaient prêtes à le faire, et je ne crois pas du tout qu'il y ait de contraintes réglementaires qui s'y opposent. Après, je reviens effectivement à la notion de gestion des ressources humaines, pas au sens recrutement, mais vraiment à la façon dont on gère les populations qui sont présentes dans nos laboratoires communs. Effectivement, je pense que c'est un secteur qui nécessite davantage de mutualisation de nos actions. On a parlé des violences sexuelles et sexistes et du harcèlement. Il est très clair que si vous êtes confronté à une hypothèse de harcèlement d'un personnel du CNRS ou de l'INSERM, c'est quand il va bien falloir qu'on travaille ensemble. Et donc, c'est dommage de ne pas monter ensemble des plans de prévention qui nous permettent d'éviter que ça n'arrive. Et d'ailleurs, il y a un autre sujet sur lequel on pourrait avancer davantage, c'est la médecine de prévention aussi. Parce que un laboratoire de recherche où le médecin voit seulement une partie, alors parfois c'est déjà le cas, hein, il y a des conventions, mais voit une seule partie des personnels, ça ne permet pas notamment forcément de bien détecter tout ce qui concerne les RPS et des choses comme ça. Et puis après, il pourrait y avoir des spécialisations aussi en fonction de différents types de risques. On sait bien, hein, le risque, enfin, chez nous, c'est beaucoup le risque chimique, le risque biologique, enfin, des choses comme ça. Je crois vraiment que là-dessus, on a de grosses marges de création et de travail en commun.
Alors justement, là, tous les deux, vous listez déjà pas mal de sujets quand même très concrets qui auraient un impact sur la vie quotidienne des personnels, des chercheurs, pour leur faciliter la tâche. Laurent, qu'est-ce qui freine ou bloque cette possibilité d'aller plus loin sur la mutualisation? On sait que, par exemple, la pyramide des emplois est un peu inversée entre université et CNRS sur les catégories A, B, C, etc., qu'il y a beaucoup de force en catégorie A, même si ça a évolué dans les universités. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour travailler plus ensemble? Quand on réfléchit concrètement, est-ce que c'est l'éclatement, là, je pense à Lyon, du cycle lyonnais et des problèmes des universités, ou est-ce que c'est simplement d'ordre plus institutionnel, de périmètres qui sont immuables, de blocages culturels? Comment on peut analyser les choses aujourd'hui?
Il y a toujours plein de mauvaises raisons d'avancer dans la collaboration. Sur le périmètre de la délégation Rhône-Auvergne, donc, on peut distinguer trois sites. Il y a effectivement le site lyonnais, sur lequel on a une pluralité d'opérateurs, jusqu'à 13 partenaires universitaires. Je reviens pas évidemment sur les difficultés qu'a rencontré le site à se structurer dans un mode PIA. On a l'université de Saint-Étienne Stéphanois, avec quelques établissements, qui est beaucoup plus modeste. Et puis un site un peu plus important que le site Stéphanois, qui est le site de Clermont-Ferrand, qui lui est dans une dynamique d'e-site. Et on a des différentes solutions de coopération à chaque fois. Alors ça peut paraître modeste et ça l'aide d'une certaine manière, mais avec l'université de Saint-Étienne, par exemple, nous avons un collaborateur qui fait partie de la direction de la recherche de l'université, qui est le correspondant du service partenariat et valorisation de ma délégation. Ça veut dire qu'on a établi ensemble le profil de poste, et il y a une partie de son temps de travail qui est mis à disposition du CNRS, et avec une convention de reversement, évidemment. C'est une solution qui correspond à la taille, aux objectifs du site. Sur le site de Lyon, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. On aimerait aller plus loin dans la mutualisation, sur l'accompagnement de la prématuration, sur l'accompagnement du soutien au développement des projets européens pour travailler ensemble et aider nos chercheurs et leur simplifier la vie sur le dépôt des projets, notamment. Sur le site de Clermont-Ferrand, on peut probablement davantage l'imaginer. Et donc, on va en discuter d'ailleurs bientôt.
Bon, vous allez aller boire un verre ensemble après.
Bon, on n'a pas attendu, mais en tout cas, voilà, chaque site a ses caractéristiques qui appellent différentes possibilités ou solutions de contribution. Mais ce serait difficile de les décrire comme ça, a priori.
C'est dû un peu du coup humain. Pascal, d'un point de vue plus peut-être macro.
Moi, la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est juste impossible de ne pas tirer les conséquences et les conclusions de tout ce qui s'est passé depuis quelques années et ne pas voir que les politiques publiques qui ont été menées ont permis de faire émerger de grandes universités intensives de recherche. Et donc, cet écosystème-là n'a plus rien à voir avec celui qui prévalait, tu l'as dit, Michel, en 2008. Donc, ne pas bouger, ne pas tenir compte de ça, c'est aujourd'hui, objectivement, une erreur historique, je dirais. Donc, continuer à dresser la liste des bonnes raisons de ne pas faire me semble quand même quelque part un petit peu compliqué. Moi, j'entends que la structuration du site toulousain, du site de Lyon est compliquée et rend objectivement les choses délicates. Je ne vois pas en quoi ça empêche Strasbourg ou Bordeaux d'avancer. Enfin, voilà, il y a objectivement des sites aujourd'hui qui sont mûrs pour aller beaucoup plus loin. Et quand je dis beaucoup plus loin, je dis beaucoup plus loin.
Mais c'est quoi, beaucoup plus loin ?
Beaucoup plus loin, d'abord, alors, en intégrant...
Il faut le dire.
Oui, mais je vais m'exprimer. D'abord, je dis que je suis totalement d'accord avec l'approche par l'expérimentation. La qualité, ça ne se décrète pas, ça se démontre. Donc, il faut faire la preuve, compte tenu du contexte qui est le nôtre au niveau national, il faut faire la preuve que ça fonctionne et que ça fonctionne au moins aussi bien que ça n'était le cas précédemment. Donc, oui, à la création de valeur. Mais je rappelle que si on n'avait pas fait ça dans le domaine de la dévolution du patrimoine immobilier, il y aurait encore aujourd'hui aucune université propriétaire de son patrimoine. Donc, il y a un moment où il faut bien quand même y aller et regarder ce qui se passe. Et... c'est Jean-Pierre Finance qui disait au moment des RCE, il faut que tout le monde y aille, et s'il y en a qui tombent, eh ben, ils se redresseront et puis ils repartiront. Donc, aller plus loin, c'est à minima des unités mixtes de services dédiées à ça. Mais enfin, moi, à titre personnel, je me demande pourquoi aujourd'hui on n'a pas même des délégations plus globales de la responsabilité de la gestion des unités données sur un territoire. Aujourd'hui, est-ce qu'on considère que, je ne vais pas parler de Strasbourg parce qu'on pourrait dire qu'il y a une forme de favoritisme déguisé, mais je parlais de Bordeaux. Est-ce qu'aujourd'hui on peut décemment dire que l'université de Bordeaux n'est pas capable de gérer des EUMR et de les gérer avec un niveau de qualité équivalent à celui que proposent les organismes de recherche? En tout cas, qu'est-ce qui permet aujourd'hui de douter qu'elle n'est pas capable de le faire? Voilà. Donc, est-ce que demain, on est capable, au moins sur la gestion? Mais on voit bien qu'une fois qu'on commence à aborder le sujet de la gestion, vient assez vite derrière la question des ressources humaines, vient la question de la politique scientifique. C'est-à-dire une université confirmée IDEX qui gère des dizaines, des centaines de contractuels, elle ne serait pas capable de gérer globalement une problématique enseignant-chercheur-chercheur. Bon, moi, j'en doute. Hein. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait aller vers la décision de confier la gestion de la recherche sur un site donné à un opérateur universitaire qui a fait la preuve qu'il était capable de le faire.
Voilà une proposition tranchée. Mais est-ce que les systèmes d'information, tels qu'ils sont aujourd'hui, permettent cela? Est-ce qu'il faut un système d'information national ou des systèmes d'information au niveau des sites? Est-ce que le débat, il est à ce niveau-là?
Le système d'information, c'est un vrai sujet. Voilà. C'est un vrai sujet parce que c'est compliqué, et c'est surtout un vrai sujet parce que ça coûte énormément d'argent et que les temps de réaction à la décision sont très longs. Mais c'est aussi un des items de la liste des mauvaises raisons de ne pas faire. Voilà. Donc, je reviens sur mon comparatif qui vaut ce qu'il vaut, mais si on avait attendu d'avoir un système d'information parfaitement nickel dans le domaine du patrimoine immobilier, on n'aurait jamais fait une seule dévolution. Voilà. Donc, il y a un moment où peut-être il faut se lancer et puis adapter à un système d'information. Tout dépend sous quel angle on pose la question. Si c'est sous l'angle de permettre aux délégataires d'être informés de ce qui se passe, d'avoir des moyens d'asseoir son pilotage, etc., oui, ça reste un vrai sujet. Si c'est sous l'angle de savoir qui paye les factures, à partir du moment où on a pris une décision de délégation, je ne pense pas que ça continue de poser un problème majeur.
Camille Chaudonneret, sur les systèmes d'information, parce que vous aviez esquissé un peu cet aspect. Après, Michel.
Vous m'interrogez sur les systèmes d'information, hein, pas pour commenter ce que vient de dire Pascal Lemieux, on est d'accord. Non, les systèmes d'information, effectivement, c'est un sujet en tout cas sur lequel il est intéressant et important de travailler. Donc, côté INSERM, nous avons fait ce choix de nous orienter vers CIFAC. J'espère que ça produira les effets escomptés. Effectivement, on avait une réserve au départ sur CIFAC qui était que... Il ne suivait pas les ressources externes aussi bien que notre propre logiciel de gestion, et donc c'est pour ça qu'on a développé CIFAC EPST. Donc la problématique des systèmes d'information, je pense que c'est une condition. Avoir un bon système d'information, c'est une condition à la qualité de gestion. Mais je suis bien d'accord sur le fait que c'est pas l'alpha et l'oméga de toute politique institutionnelle. Il n'y a pas forcément de lien. Mais ça peut aider quand même. Ça peut aider les choses à se dérouler mieux, quelles que soient les décisions prises.
Jérôme Parrain et Laurent, peut-être, je ne sais pas si. Non, mais Jérôme d'abord, puis après Laurent.
Une des raisons très techniques pour lesquelles ça ne marche pas, c'est que, bon, quand on parle de système d'information, on parle de données, d'organisation de ces données, de référentiels. Et quand on commence à aller là-dessus, en fait, on vient toucher tous les processus, les modes de gestion. Et c'est là, assez rapidement, qu'on se rend compte que ça marche pas et qu'on n'est pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit, effectivement, on se met d'accord pour adopter le système d'information de l'autre et puis, finalement, considère que par rapport aux besoins d'information qu'on a dans une hypothèse où la gestion serait confiée à un des partenaires, eh ben ça suffit et on a le bon niveau d'information. Ça, c'est une piste. La piste de construire un système d'information unique, centralisé, bon, ça a prouvé plusieurs fois que ça n'était pas raisonnable, pas possible. Après, je pense qu'il faut être très vigilant parce qu'on commence à voir des acteurs extérieurs du domaine privé qui sont en train de se positionner sur ce domaine-là, qui ont des moyens financiers tels qui vont assez rapidement et qui proposent déjà à l'échelle européenne des offres qui peuvent être alléchantes. Et le risque, finalement, si on ne trouve pas d'autres solutions, c'est de... La nature ayant horreur du vide, c'est qu'on va avoir des établissements qui vont aller sur ces outils-là, avec le risque de reproduire ce qu'on a pu connaître en termes de documentation et d'édition scientifique. Il y a des offres aujourd'hui de prestataires externes. Si le produit marche très bien, on le prend. Et un des phénomènes, c'est pour ça qu'on est toujours dans cette hésitation de est-ce que je développe mon propre système d'information ou est-ce que je l'achète, c'est que une fois que j'ai acheté un système d'information, les coûts de transition, si je veux en changer, sont énormes. Et donc, on devient très rapidement captif de prestataires qui, après, ont la partie très facile à augmenter leurs tarifs et à venir prendre les ressources qu'on veut bien leur donner.
Laurent, sur les systèmes d'information, parce qu'on avait évoqué ça. Ouais.
Non, mais effectivement, si tu veux renvoyer effectivement à l'étonnement, la couverture fonctionnelle des applicatifs qui existent au CNRS est beaucoup plus importante que dans celle des universités que j'ai pu côtoyer, dans lesquelles j'ai pu travailler, que j'ai pu connaître. Ça, c'est l'état des lieux aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est intangible. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a des possibilités déjà qui existent. Elles ne sont pas saisies. Elles ne sont pas attrapées. Je vais prendre un exemple. On a un outil au CNRS qui s'appelle PCRU, qui a été développé, qui permet à l'ensemble des partenaires d'une UMR de récupérer l'information financière de la gestion contractuelle et d'en retirer donc des informations utiles au pilotage. Pour l'ensemble. On peut connaître, quel que soit le gestionnaire, les montants gérés. Et voilà. Le CNRS produit cet outil. Les connecteurs pour le raccorder à CIFAC existent. Les connecteurs pour le raccorder au système Cocktail existent. Moi, j'ai des partenaires sur le site Yonnais, pour ne pas les nommer, qui, aujourd'hui encore, traînent des pieds pour l'adopter, pour engager simplement le projet de le déployer. C'est dommage. Et c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Alors peut-être, est-ce qu'il y a, ce que disait Jérôme, adopter l'outil d'un autre, il y a toujours une question peut-être qui peut être compliquée de s'utiliser, j'en sais rien. Mais toujours est-il que rien que ces petites choses qui paraissent des progrès modestes ne sont pas aujourd'hui instrumentées et pas aujourd'hui saisies. Ensuite, on n'est pas forcé d'adopter non plus des solutions uniformes pour tout. Aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont en cours au CNRS et les instituts travaillent de leur côté. Les délégations sont réunies pour travailler aussi à différentes évolutions. Il y a différentes... Pour les unités, on n'est pas forcé d'adopter une solution unique. peut-être que l'évolution en termes d'organisation vers des EMR ici va être une bonne réponse pour telle unité ou pour tel ensemble d'unités. Peut-être que l'évolution vers la DGG sera une bonne réponse pour telle autre unité. Peut-être que le CNRS doit faire le choix aussi, c'est déjà évoqué dans les pistes de travail, de passer sur de tutelle secondaire, voire de se retirer de la tutelle. Peut-être que la réduction du nombre de tutelles pour passer à une tutelle organisme de recherche, une tutelle université, c'était une suggestion de mon rapport d'étonnement. On me demandait si vous aviez une baguette magique, vous feriez quoi ? J'ai répondu, ça serait ça. Ça serait faire en sorte que dans les unités, il n'y ait plus qu'une tutelle ONR et une tutelle université. C'est pour la plaisanterie, mais encore une fois, il n'y a pas une solution uniforme ni dogmatique qui peut être adoptée, mais il y a des solutions qui peuvent être adaptées à chaque fois aux partenaires universitaires en présence, pas la même chose à Grenoble que sur le site lyonnais, et puis aux unités. Toutes les unités ne vont pas réclamer le même accompagnement, le même soutien. Et encore une fois, c'est la différence entre la simplification et les couches de simplification, quoi. Quand on rencontre une difficulté d'ordre réglementaire ou une impossibilité matérielle, la vraie simplification, c'est de résoudre à l'instant, y compris en supprimant parfois l'obstacle réglementaire ou organisationnel ou structurel. Si on veut créer pour l'ensemble une disposition qui descend du haut, ça devient des couches de simplification. Et à la fin, c'est plus du tout de la simplification.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tout va bien, qu'il n'y a pas de doublon entre université et organismes de recherche ? Que ce soit sur les contrats européens, sur la propriété intellectuelle, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des doublons à résoudre qui impliqueraient une forme de lâcher prise d'une institution par rapport à l'autre ? Enfin, est-ce que c'est une réalité ? Non pas en termes de coûts de fonctionnement, mais de complications pour les communautés. Parce que c'est ça que je vois un peu partout. Hein, parce qu'on dit toujours les choses ont avancé, mais quand même on a l'impression que ça n'avance pas, les doublons. Et je crois que la Cour des comptes l'a pointé. Je me demande si l'inspection ne l'a pas pointé aussi régulièrement. Il me semble avoir lu ça. Je sais pas, Pascal.
On peut pas. Enfin, la question des doublons pose la question de la légitimité de chacun des acteurs à exister. Enfin, on peut pas reprocher au CNRS de s'organiser pour gérer intelligemment les responsabilités.
Ça pose le problème des deniers publics, quand même.
Oui, mais c'est bien pour ça que je pense que une partie des réponses se trouve dans une clarification de l'organisation du système. Mais je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Il y a deux chemins pour y arriver. Il y a un premier chemin qui est l'équivalent de ce qui, à un moment donné, a été fait dans le domaine des RCE. C'est-à-dire il y a une grande décision structurelle qui est prise. Il y a un deuxième chemin par la voie de l'expérimentation et de la diversification des choses qui permet d'expérimenter sur le terrain des dispositifs qui vont être différents d'un site à l'autre. Mais pour ça, il faut qu'effectivement, encore une fois, on tire les leçons de ce qui s'est produit depuis le lancement des IDEC, c'est-à-dire l'émergence de véritables universités de recherche. Je parle plutôt de celle-là, puisqu'en face, il y a des organismes dits, des organismes de recherche. Donc, le CNRS, l'INSERM sont bien évidemment légitimes à avoir une politique de valorisation et à créer les outils nécessaires. La question qui se pose, c'est est-ce qu'à un moment donné, le CNRS ou l'INSERM a intérêt à rechercher une voie un peu plus expérimentale qui va permettre de confier aux partenaires la réalisation d'un certain nombre de choses pour son compte. C'est ça la vraie question. Et les doublons, ils n'existent que parce que aujourd'hui, il y a des responsabilités qui sont comparables, qui sont confiées aux deux types d'établissements. On peut pas, encore une fois, il ne s'agit pas de reprocher ni au CNRS ni à l'INSERM d'être ce qu'ils sont.
Alors, mais Michel, justement, Michel a évoqué tout à l'heure les changements. Il faut que les institutions, ça parte des institutions et pas des chercheurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un message clair des institutions, que ce soit les universités, les organismes, pour dire non seulement il faut expérimenter, mais on veut expérimenter concrètement. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Parce que on n'a pas l'impression.
Écoute, alors là, on est dans un sentiment un peu impressionniste. Moi, j'ai dans ce que j'écoute, de ce que j'entends et des échanges que j'ai avec un certain nombre de personnes, il me paraît que le contexte est aujourd'hui beaucoup plus favorable qu'il ne l'était qu'il y a simplement quelques années pour qu'on envisage ça. D'abord à cause de l'évidence que rappelait Pascal. C'est vrai que la segmentation et la réorganisation du système universitaire avec l'émergence des universités dites intensives en recherche repose la question d'un partenariat renforcé entre elles et les organismes de recherche sur une composante du métier universitaire qui est plus importante et plus forte. Et donc voilà, le sujet il a monté. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut penser aux autres. Aux autres universités. Ça veut dire que si on imagine que l'expérimentation avec le CNRS ou d'autres organismes de recherche, parce que c'est quand même principalement le CNRS, devrait se faire sur cette logique-là, il faut aussi qu'on envisage l'idée que pour les autres universités, ça ne se fasse pas. Et que peut-être que des solutions différentes soient trouvées. C'est-à-dire que dans un cas où, moi là je fais complètement de la science-fiction, on imaginerait que le lâcher-prise qu'évoquait Pascal, c'est-à-dire que le CNRS renoncerait à la gestion en direct de composantes d'UMR, à la gestion des UMR, pour la confier complètement à des universités intensives en recherche avec qui il a des relations fortes, parce qu'il a une stratégie scientifique, parce qu'il a une politique qu'il partage, la gestion n'est qu'un moyen, c'est pas une finalité. Un système d'information, c'est qu'un outil, c'est pas une finalité. Donc, parce qu'il y a cet accord-là, ils le font. Peut-être qu'on pourrait imaginer que, par contre, dans d'autres universités, ce soit le CNRS qui reprenne tout. Voilà. Parce que si on cherche, pour le coup, la lutte contre les doublons dans une bonne logique d'optimisation des ressources, ça pourrait conduire à ça. Une sorte de partage intelligent des fonctions que chacun exerce, parce que légitimement, comme organisation, ils doivent exercer ces fonctions. Ils l'ont pas fait pour s'emmerder réciproquement, ils l'ont fait parce qu'ils en ont besoin. Et de ce point de vue-là, revenons un instant sur les systèmes d'information, pour dire ce qui n'est pas possible, parce que le mythe du système d'information unique, il a quand même couru la campagne pendant 20 ans comme étant la capacité à régler ce problème politique en contournant et en trouvant une solution qui faisait que sans poser le problème, on allait trouver la solution. Ma cache, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? D'abord, un système d'information national, ça pour le coup qui s'appliquerait à tous. Alors là, je sais pas, mais là il faut boire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour imaginer que ça puisse marcher. Hein, ou il faut prendre des trucs qui sont quand même assez puissants. Hein, parce que ça, c'est vraiment inimaginable d'un point de vue fonctionnel. Et puis on voit bien que la rationalité du jardin à la française que l'administration française porte, déjà dans les textes, c'est bien. Mais alors si ça vient dans les outils, je sais pas où on va finir. Big Brothers is watching you. Voilà. Bon. Ça, c'est pas possible. Pas de système national. Et après, chaque organisation a besoin de son système d'information. C'est complètement légitime. Et encore une fois, on peut se mettre d'accord sur des règles. Et je vois par exemple que la dépêche de l'AEF sur la décision du CNRS d'appliquer ses règles de gestion sur les conventions. Alors après, on peut discuter de la manière de le faire savoir. Mais que le CNRS dise que partout en France, où il gère des conventions, il applique la même règle de gestion, ça me paraît un truc d'une simplicité tellement biblique qu'il n'y a pas un responsable de gestion qui puisse dire que c'est idiot. C'est logique du point de vue du CNRS. Après, comment tu discutes pour partager, ça c'est une autre question. Mais chaque institution a besoin de son système d'information. Et dans un système d'information, il y a des règles, mais il y a des processus de fonctionnement et une organisation. Et quand bien même toutes les universités, quand bien même tous les organismes de recherche utiliseraient le même outil, je dis n'importe quoi, CIFAC, ou PeopleSoft, ou Oracle, de toute façon, leur organisation n'est pas la même, leur mode de fonctionnement n'est pas la même, donc leur système d'information, son architecture sera pas la même. Et donc forcément, chacun a le sien. Et donc quand on essaye de faire converger ça à la fin sur l'UMR, qui n'est qu'une brique, une composante du système, en disant tout ça va se réunifier là, c'est impossible, ça peut pas marcher. Alors après, c'est la question que posait Pascal. Qu'est-ce qu'on fait du système d'information? Si c'est pour produire de la donnée de gestion, eh ben chacun est organisé comme il est organisé, dans l'accord qui passe, produit des données qui sont fiabilisées parce qu'il y a un accord réciproque, et ces données, il peut les transmettre à qui de droit pour faire de la gestion. Ça, là, il n'y a aucun enjeu stratégique. C'est normal que ces données soient partagées, du moment que chacun sait les produire. L'autre question plus compliquée, c'est des données pour piloter. Mais là, pour piloter, ça suppose d'avoir une politique qu'on veut mettre en œuvre. Et c'est autre chose que gérer, ça. Et là, les systèmes d'information, à mon avis, dans la question du pilotage, deviennent une question assez secondaire, parce que là aussi, toute organisation a besoin d'instruments de pilotage stratégique pour mettre en œuvre sa stratégie. Après, elle peut se partager, mais c'est autre chose. Donc voilà, le système d'information, il faut arrêter de rêver. C'est pas ça qui va être la solution.
De toute façon, ça fait pas rêver pour l'instant, le système d'information. Pascal, une dernière remarque, peut-être, une dernière réaction. Après, on va passer aux échanges avec la salle et tout le monde va pouvoir reprendre la parole. Il a oublié sa remarque, donc ça va revenir. Bon, qui veut poser une question? Alors, vous vous représentez, hein, mais on se connaît, mais c'est mieux, hein, toujours. Alors, il y a un micro. On a un micro, on a des micros en plus. Alors,
on a des moyens. Donc. Il y a des moyens.
Merci. J'ai juste une question, parce que c'est très intéressant ce que vous venez d'expliquer, mais il ne faut pas oublier qu'une université a des missions et n'a pas que la mission de recherche, alors qu'un organisme de recherche n'a qu'une mission. Et donc c'est pour ça que tout ça pose problème, parce que, enfin, me semble-t-il. Et donc c'est la question que je vous pose, comment on va résoudre ce sujet-là à partir du moment où une université a plusieurs missions et que l'organisme de recherche, est-ce que vous voyez la solution? Voilà.
Alors, François Pakis, on va regrouper.
Oui, et c'est simplement François Pakis, donc DGS de l'Université de Clermont Auvergne. Alors simplement quelques remarques, parce que lorsque j'étais DGS de Paris Descartes, on avait largement avancé sur la délégation globale de gestion avec le CNRS, en tout cas, parce que côté INSERM, ça va être une fin de non-recevoir, mais pour des bonnes raisons, puisqu'il y avait une administration déléguée où il y avait 40 personnes, donc c'était un peu compliqué, on va dire. Mais on avait bien avancé, en revanche, côté CNRS, avec d'ailleurs, à ma grande surprise à l'époque, beaucoup de réticences des directeurs de labo qui trouvaient avantage à aller à l'endroit où l'agent comptable était plus souple pour aller vite. Et c'est toujours vrai, puisque dans mon université, les directeurs de labo me disent que sur la carte achat, ils préfèrent le CNRS parce que l'agent comptable est plus souple que celui de l'université. Dans d'autres cas de figure, ils préfèrent l'université, etc. Bon, mais je crois que le vrai sujet, c'est la culture du service à la recherche. Parce que ce qu'on ressent quand même, c'est que dans les organismes de recherche qui sont dévolus à ce que disait Gwenoël, il y a quand même une volonté de rendre service aux chercheurs dans les laboratoires. C'est vrai que dans les universités, c'est parfois un peu plus compliqué. Alors, je sais que moi, actuellement, à Clermont-Auvergne, malheureusement, ça a été un peu interrompu par le Covid, mais j'avais commencé à faire des réunions de cadres à l'intérieur des labos. On commençait par une visite du labo pour que la directrice des achats comprenne qu'il y avait des spécificités dans les laboratoires, qu'il n'y avait pas que des questions économiques, la directrice financière, etc. Enfin, j'en passais des meilleurs. Donc c'était, moi je trouve que c'est pas mal, mais parce que c'est vrai que c'est pas spontané dans les universités. Les directions centrales, elles font toutes sortes de choses, leurs recherches au milieu du reste, et elles comprennent pas forcément l'enjeu qu'il y a derrière ça. Donc je pense que si on veut converger, il faut vraiment qu'il y ait une culture qui soit partagée au service des chercheurs et des anciens chercheurs dans les laboratoires. Et puis pour finir sur le système d'information, je ne résiste pas à rappeler une séance qui doit dater de 2004, où avec Pascal Aimé, on avait été rencontrer Michel Eddy pour lui vendre Graal, qui était un SI recherche, donc ça doit faire 18 ans maintenant. Mais on continue, puisqu'à Clermont, on développe CapLab, etc. Mais c'est un long chemin, on va dire.
On a essayé. Une remarque sur les multimissions des universités et la culture d'établissement par rapport à la recherche.
Je pense que François a redit en partie ce que j'ai évoqué au démarrage. C'est-à-dire que c'est une chose de revendiquer légitimement un rôle, c'en est une autre d'être en capacité de le jouer. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que aujourd'hui 88% des DGS considèrent qu'ils n'ont pas de relations de type hiérarchique avec des responsables administratifs de composantes ou avec des directeurs d'unité. C'est compliqué d'aller vers les dispositifs qu'on évoque là si on ne sait pas corriger ça. C'est compliqué d'aller dans la direction qu'on évoque si il est plus possible d'engager des crédits dès le 1er décembre ou entre le 15 juillet et le 15 août. Enfin voilà, donc il faut mettre les actes en cohérence avec les objectifs, et il y a évidemment un saut qualitatif à achever. Donc, la distance est plus ou moins longue, mais encore une fois, les outils existent, y compris les solutions qui ne sont peut-être pas les solutions les plus efficaces et les plus rationnelles. Mais aujourd'hui, rien n'empêche un site qui voudrait aller de l'avant de créer une unité mixte de services et de faire travailler ensemble des personnels du CNRS, de l'INSERM et de l'université, quitte à ce qu'ils continuent à utiliser un certain nombre de systèmes d'information différents. Mais c'est déjà le cas dans le système actuel. Rien n'empêche de le faire, ça. Rien n'empêche dans une université de créer un budget recherche. Alors ça pose évidemment la question du lien des UFR avec la recherche, mais rien n'empêche d'avoir une entité, une unité budgétaire recherche dont la gestion serait créée, à l'instar de ce qui se fait un peu dans les organismes, à une structure professionnalisée, compétente, réactive, avec les mêmes idées de plus-value de services rendus. Bien sûr que c'est compliqué, parce que derrière, il faut discuter avec les directeurs du FR, etc. Mais rien n'empêche techniquement de le faire. On a déjà la possibilité d'engager des choses. Moi, je reviens toujours avec mon parallèle avec la dévolution du patrimoine. Il est possible déjà de cranter des choses. Pas parfaites, mais de les cranter. Voilà. Après, c'est plus compliqué de convaincre le CNRS de dire « Ok, tout ce qui concerne financièrement l'Université de Bordeaux, je fais un gros chèque et l'université se débrouille et elle me rend compte. » C'est honnêtement, politiquement, beaucoup plus compliqué. Mais créer un budget, une unité budgétaire recherche, je suis désolé, c'est compliqué politiquement peut-être, mais techniquement, ça l'est pas. Créer une unité mixte de services, mettre des gens ensemble, ça a failli marcher à Strasbourg. Ça a failli marcher à Strasbourg il y a 15 ans. Et, bon, je le dis en off, bien sûr, mais si ça n'a pas marché à l'époque, ça n'était pas de la faute du CNRS, parce que Bertrand Minot était très allant pour le faire. On a vraiment... Moi, je venais d'arriver à l'IG, je regardais ça à l'époque, on a été à un quart de cheveux d'y arriver. Et c'est, voilà. Donc, il faut que chacun, j'allais dire, balaye devant sa porte, c'est un peu... Mais voilà, il est possible de faire des choses dès aujourd'hui, dès lors qu'on veut les faire.
Oui, bonjour. Olivier Choureau, DGSA de l'Université Paris-Saclay. Il y a un domaine de la gestion et qui relève vraiment de la gestion qui n'a pas été abordé, c'est celui de la science ouverte et de la gestion des signatures. Et alors j'en parle parce que on a dit tout à l'heure que globalement le service était mieux rendu par les organismes de recherche que par les universités. Là, en l'occurrence, ce sont très souvent les universités qui ont pris le lead sur à ce sujet. Si j'en parle, c'est parce qu'il y a deux enjeux importants. Il y a un enjeu de mesure de la performance dans les classements internationaux. On ne construit pas une université comme Paris-Saclay si on n'arrive pas à garantir que le chercheur ou l'enseignant-chercheur d'une UMR a la même structure de signature. Et en ce qui concerne la science ouverte, pour éviter de repayer sous forme d'abonnement à de la documentation électronique les productions de nos propres chercheurs. Alors si j'en parle comme un domaine de gestion, c'est que c'est vraiment un domaine de gestion. Je reprends l'exemple de la science ouverte. Nous, en 4 ans, on est passé de 60% à 64% de publications en accès libre. Alors, soit via la loi Lemaire, soit en accès libre natif. Mais 1% par an, il faut aller le manger avec les dents. Il faut faire le tour des UMR, il faut faire des actions de sensibilisation, il faut répondre au téléphone parce que les chercheurs savent pas toujours comment faire, etc. Pour les signatures, il faut mettre en place des systèmes d'identifiants uniques. C'est un enjeu vraiment important. Il y a évidemment un niveau politique, voter une charte de signature et avoir un document programmatique de science ouverte. Mais derrière, si on ne met pas en place les structures qui permettent d'accompagner le mouvement, rien ne se fait vraiment.
C'est pas la gestion, Pascal ?
Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse peut-être le distinguo entre les... un certain nombre de sujets qui sont des vrais sujets, et celui-là incontestablement en est un, mais il se caractérise quand même par... c'est quelque chose qui est en profonde évolution, qui bouge très vite, et sur lequel il peut être objectivement compliqué de construire des dispositifs. Jusqu'à présent, on était en train de parler de bons de commande, de gestion de factures, enfin, etc. Là, pour le coup, ça bouge pas si vite que ça. Et les systèmes d'information ne bougent pas si vite que ça. Donc, moi, je ferais peut-être un petit distinguo, parce que honnêtement, autant je vous ai dit, c'est simple, les UB, les unités mixtes de services, dans le domaine des archives ouvertes, dans le domaine de l'évaluation, l'impact de la déclaration de San Francisco, qui est capable de dire voilà ce que sera le paysage dans 5 ans, dans 10 ans, honnêtement, en tout cas, moi, je ne sais pas faire. Alors que le paysage de la comptabilité publique dans 5 ans, bon, c'est plus simple. Moi, je pense que voilà, ce sujet des archives ouvertes est un sujet compliqué. C'est pas la même chose que la question de la signature. Hein. La question des signatures, enfin, moi, je suis désolé, mais j'ai arrêté d'être DGS en 2004, donc c'était pas hier. Dans les contrats, il y avait déjà, dans certains sites, des accords portant sur la signature des publics. Et je lis encore de temps en temps des communiqués, des dépêches de nos amis annonçant comme une grande victoire la mise en place d'un dispositif de signature unique en 2022 à tel endroit. J'essaie de faire un distinguo. La question des archives ouvertes, objectivement, c'est quand même l'accès aux ressources documentaires en ligne, les relations avec les éditeurs, c'est quand même un sacré sujet. Je comprends que pour vous, sur le terrain, ce soit quelque chose d'énorme. Paris-Saclay, encore plus, bien sûr. Hein. Mais si on commence à rentrer dans le sujet qui est le nôtre cet après-midi par ce biais-là, je suis pas sûr qu'on puisse arriver à des choses très simples, très rapidement.
Jean-Luc Argentier, DGS de la commune Université de Lyon. Je voulais revenir sur les obstacles que vous avez évoqués pour essayer de mutualiser ou d'avancer en termes de gestion. Quand j'étais DGS à Grenoble, on avait tenté avec mon collègue de l'INP et ton prédécesseur Jérôme de travailler ensemble sur ce que vous avez évoqué aussi, ce qu'a évoqué notre collègue de l'INSERM, sur la médecine de prévention des personnels et l'hygiène et la sécurité, pour essayer de faire en sorte d'avoir une vision un peu commune et globale sur ces éléments-là. On avait plutôt bien avancé et on s'est vite heurté à la responsabilité de l'employeur. Et c'est là que, alors je ne sais pas dans quelle mesure les expérimentations qui sont menées dans le cadre des EPE pourraient éventuellement aider à peut-être pas contourner cette responsabilité, mais faciliter cette gestion-là. Mais on a l'obstacle principal, c'était celui-ci.
Alors, je crois que, donc effectivement, je te confirme que sur Grenoble, ces acquis-là ont perduré. Je crois que sur la question de la prévention et de la sécurité, on a fait de grands pas en avant par la crise Covid. C'est-à-dire que nécessité faisant loi, en dépit des textes, on sait coordonner. On a su se coordonner sur les questions, voilà, vraiment très pratico-pratiques auxquelles on a tous été confrontés pendant la crise. Et là, finalement, hébergeurs, employeurs, on est quand même, et avec les organismes de recherche, on a dépassé cette question-là. Sur la médecine du travail, aujourd'hui, on est de fait totalement mutualisé. Mais contraint et forcé, c'est qu'il y a une telle pénurie de médecins du travail que les quelques-uns qu'on a réussi à recruter, ben on se les partage et on a tous les mêmes. Donc ça, effectivement, ça permet d'avoir cette organisation où c'est un même médecin qui suit un même collectif, un même laboratoire, qui fait les signalements après à qui de droit. C'est le médecin qui assure sa gymnastique pour savoir quand il y a un problème vers qui il se tourne d'abord. Mais en tout cas, oui, ça c'est des sujets aussi sur lesquels on peut avancer assez nettement.
Mais ça c'est bien.
Peut-être que ça c'est un principe de base, c'est un axiome.
Oui, alors Camille Chaudonnet,
commenter
puis revenir après sur, on va prolonger sur la cartographie des délégations régionales, parce que c'est une chose qui a frappé. La cartographie universitaire a beaucoup changé. La cartographie, je l'avais déjà soulevé, des organismes de recherche, de leur organisation sur le terrain, a pas forcément suivi de manière synchrone. Donc c'est intéressant puisque vous avez mené une fusion de délégations régionales. Voilà.
Non, je voulais juste commenter ce que vous disiez sur la crise sanitaire, parce que on attendait ce genre de crise. Il n'y a pas longtemps, j'étais à une conférence qui disait que de toute façon, ce genre de situation de crise génère de l'innovation. Alors j'espère que c'est encore plus vrai pour la recherche, et je pense que ça l'a été puisque les gens on peut beaucoup travailler à la production de vaccins, etc. Et moi, je trouve que ça a modifié durablement et positivement un certain nombre de relations qu'on peut avoir avec les labos. François, tout à l'heure, que je n'avais pas salué, mentionnait les difficultés avec les cadres pour aller en laboratoire. Nous, en fait, c'est aussi quelque chose qu'on a utilisé. On a utilisé la visioconférence pour être beaucoup plus proche des laboratoires. Le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais été aussi proche des laboratoires que depuis le début de la crise sanitaire et la mise en place des visioconférences. C'est pas d'être au labo, mais c'est quand même d'être proche d'eux. Sur la carte.
Sur la carte et les délégations régionales, puisque bon, oui. Au niveau de l'INSERM, il y a eu en tout cas une fusion que vous avez menée. Peut-être revenir avec Laurent, même si c'est pas le sujet spécifique de Laurent, mais l'adéquation de la cartographie des délégations régionales CNRS avec la carte universitaire nouvelle.
Alors, en tout cas, en Île-de-France, je pense que en province, il n'y a pas eu d'évolution majeure récente en termes de carte des délégations régionales de l'INSERM. En revanche, en Île-de-France, il a été fait le choix il y a maintenant à peu près 5 ans c'était en fait historiquement le cas d'ailleurs. Toutes les délégations franciliennes étaient adossées à une université biomédicale de référence. Et il y a quelques années, le choix a été fait d'accoler les délégations régionales aux grands regroupements universitaires quand ils existaient. Ce qui fait que nous avons une délégation régionale qui correspond à l'Université Paris-Cité plus à l'Université Paris-Nord, qui est quand même dans le même IDEX au départ, quand ça a été décidé. Moi, je dirige donc la délégation qui a en charge Sorbonne Université plus le regroupement PSL, donc avec tous les établissements de PSL, plus l'UPEC qui n'est pas intégré à un regroupement. Je pense que je n'oublie personne. Toutes mes excuses si c'est le cas, ce n'est pas délibéré. Et puis, ma collègue Laurence Parmentier s'occupe de Paris-Saclay, en gros. Donc ça fait 3 délégations franciliennes. Donc, je ne sais pas si c'était...
Mais vous en avez fusionné.
J'en ai fusionné 2. Voilà, donc, effectivement, voilà. Initialement, je dirigeais la délégation qui était en charge de... c'est un peu compliqué, qui gérait en gros PSL, l'UPEC et Paris Nord. Et je l'ai fusionné avec la délégation qui gérait SU. Voilà, à peu près.
Plus, et c'est dans un objectif de rationalisation.
Oui, de rationalisation. De diminution des effectifs, alors, non, pas du tout. Voilà. L'objectif était quand même d'animer le dialogue partenarial avec les partenaires de mixité. Avec des personnes identifiées. C'est-à-dire que dans la délégation que je dirigeais initialement, il y avait 3 regroupements universitaires de mémoire. Et surtout, ça éclatait certains regroupements entre 3 délégués, ce qui n'était pas du tout pertinent en termes de relations de mixité. Là, c'est vrai que je vais à des instances de PSL, de la même façon que je discute avec mes collègues d'SU en permanence, et puis avec l'UPEC. Et c'est moi l'interlocuteur unique pour tout le périmètre PSL, par exemple. Enfin, unique, sur ma partie, en tout cas.
D'accord.
Et c'est la même chose pour mon collègue François Chamblin, qui, lui, dirige une délégation qui s'occupe de l'Université Paris. Paris-Cité, c'est comme ça?
Paris-Cité.
Paris-Cité. Paris-Nord, c'est l'interlocuteur dédié pour... Je pense que c'est plus efficace en termes de gestion de laboratoire commun, en tout cas.
Alors, au CNRS, il y a une esquisse de réorganisation, si j'ai bien compris.
Alors, en tout cas, la carte des délégations, c'est pas le sujet aujourd'hui qui est un sujet de réflexion majeure. C'est même la dernière des questions, finalement, si on veut raisonner. Les moyens suivent, quelque part, la dynamique fondamentale de la recherche sur un site, et c'est plutôt ça qui doit commander. On va mettre de côté tout de suite la réorganisation qui a fait l'objet d'une dépêche avec Paris-Normandie, du nom d'un joli quotidien électronique, je crois, aujourd'hui. Mais c'est pas un mouvement qui est né d'un impératif très récent. C'est quelque chose qui était dans les réflexions depuis une dizaine d'années, au moins, et en raison, tout simplement, de la taille, du nombre de chercheurs, de la quantité d'objets à gérer. C'est vraiment ça, la décision. C'est pas une décision d'une particulière acuité politique. En revanche, plus que la simple cartographie évolutive des délégations, il y a ce qu'on fait dans ces différentes délégations. Et c'est là-dessus que la réflexion, elle est en cours. C'est-à-dire que certains sites vont appeler peut-être le développement de certains types de services ou d'appuis, alors que sur d'autres sites, ça ne sera pas vrai. Et c'est là où que le CNRS y réfléchisse, c'est bien, mais qu'on y réfléchisse avec nos partenaires, ça va être beaucoup mieux encore. peut-être qu'effectivement, s'il y a des savoir-faire qui existent déjà dans l'université, on peut se mettre d'accord pour développer cet appui à nos chercheurs dans le sens de leur intérêt et de leur performance. Et sur d'autres secteurs, peut-être que le CNRS va consacrer une reconcentration de ses moyens de support et de soutien pour développer à nouveau d'autres types de fonctionnalités de services. Alors évidemment, on pense encore une fois à l'accompagnement au dépôt de projets européens, notamment, qui sont un des objectifs du CNRS, et on le partage en général avec nos partenaires, bien évidemment, puisque c'est un objectif national. Mais on a d'autres séries d'appuis qu'on peut réfléchir de façon conjointe et différenciée sur les sites. Et c'est ça, en tout cas, le cœur de la réflexion en termes d'appui.
Des questions ?
Est-ce que je peux en profiter donc, moi, je suis à la retraite, donc c'est pas dans un mois. Je suis déjà à la retraite. Mais juste, c'est pas une anecdote, mais on a parlé système d'information. Et aujourd'hui, sans changer forcément tous les systèmes d'information, il y a plein de systèmes, ce que tu évoquais, de connecteurs qui permettent d'aller chercher dans les systèmes des choses. Mais une fois qu'on a dit ça, le diable est dans les détails. Quand je suis arrivée à l'université, je comprenais rien à CIFAC, etc. Et au DGG, bon... Et ça m'intéressait. Donc je lis un jour une dépêche AEF. Donc ça devait être en 2011 d'un labo. Le collègue de Sorbonne n'est plus là, mais d'un labo prestigieux de ce qui était à l'époque UPMC, labo en sciences, enfin qui devait être sous co-tutelle INSERM. Et un grand professeur disant la DGG c'est horrible. Enfin c'était vraiment une déclaration de guerre contre la DGG. Je me dis, ah ben, c'est quoi cette histoire? Parce que bon, moi, j'étais une petite université où il n'y avait pas trop ce type de problème. Et puis, en fait, en lisant jusqu'au bout, je m'aperçois qu'en fait, c'était CIFAC qui lui posait un problème. C'est-à-dire que, bon, CIFAC, pour tous les... Vous le savez tous, ça fait plein de choses. Ça dit papa, maman, ça permet de faire plus ou moins de la comptabilité analytique. Ça ne permet pas à un directeur de labo d'avoir facilement accès à « j'ai tant de crédits en début d'année, j'en ai dépensé tant, il en reste tant ». Il faut beaucoup de boulot pour arriver à mettre en place des tableaux de bord. C'est possible, et je pense que la plupart des universités l'ont fait. Mais il faut des agents compétents qui savent le faire et ça prend du temps. Et en fait, l'AEF à l'époque où tu étais avait repris et ça avait soulevé, donc encore une fois, je pense que c'était en 2011, un tas de questions qui remettaient en cause la DGG. Et de ce que j'avais lu moi, en fait, c'était un bête problème extrêmement matériel. Donc les SI... C'est pas un obstacle, je suis tout à fait d'accord, mais il faut qu'on anticipe les demandes des utilisateurs. Et bon, ceci étant, encore une fois, par rapport à il y a 10 ans, des outils comme celui qu'évoque Laurent existent, qui vont jeter les données sans avoir besoin de tout bouleverser. Mais bon, je voulais dire parce que... Alors, cas inverse, dans mon université, du MR, j'avais proposé une DGG inversée, parce que le CNRS, dans mon cas, avait des moyens qu'on n'avait pas pour faire des cartes à faire, des choses comme ça.
C'est une information simple, je t'invite.
C'est les syndicats de BIAT qui sont arrivés en disant « Mais c'est pas possible, on n'aura plus accès à CIFAC, donc je ne vais pas pouvoir progresser au sein de l'université ». Et je redis des directeurs de labo qui n'étaient pas intéressés parce que ça leur allait bien, comme le disait François, ça leur allait très bien de jouer entre les tutelles, les agents comptables, etc. Donc la volonté permet de faire des choses, mais il faut qu'il y ait la volonté.
Il doit produire de l'anonymat, mais il n'a pas, lui,
des relativement petits.
Non, il a géré le système.
Merci pour voilà. D'autres questions ? Frédéric.
Une petite question, on n'a pas beaucoup évoqué la valorisation de la recherche, le transfert de techno. J'aurais aimé un peu connaître le sentiment des uns et des autres sur la coexistence, notamment des SAT, qui font de la pré-math, de la math, voilà, de la gestion de pays, et puis d'entités un peu similaires au sein des EPST, je pense notamment à INSERM Transfert. Finalement, est-ce que tout ça est bien cohérent et pourquoi pas utile ?
C'est moi qui dois répondre, c'est ça?
Sur l'INSERM, probablement.
Il va falloir que je défende mon bout de pain. Je vais juste essayer de paraphraser ce que disait tout à l'heure Pascal Aimé sur le fait que c'est inhérent aux missions de l'INSERM que d'avoir une structure de valorisation dédiée, enfin, et spécialiste surtout dans les affaires de santé. Et vous comprendrez tous que je m'en arrête là.
si je me permettais, je dirais que c'est compliqué de reprocher à l'INSERM d'avoir créé une filiale avant que les SAT ne soient créés.
Valérie Gibert, DGS Strasbourg. Je voudrais rebondir là-dessus parce que je vais prendre à contrario. Nous, à Strasbourg, on a une SAT qui fonctionne bien, dans laquelle sont représentés évidemment l'université, mais aussi le CNRS et l'INSERM. L'INSERM a accepté, comme l'université, de faire gérer ses contrats aussi par la SAT et pas le CNRS. Donc voilà, on voit les limites de l'intégration et on travaille très très bien avec les différentes ONR, on travaille très bien avec le CNRS et l'INSERM à Strasbourg, mais là il y a un point de blocage qui est dommage parce qu'on va pas jusqu'au bout de la logique.
La gestion des contrats est pas une compétence engagée des SAT, hein, c'est une option, donc effectivement. J'entends.
On est d'accord, mais on a décidé de confier cette mission-là à la SAT. Ça marche extrêmement bien. Là, on est en train de faire un PUI, Polynique d'innovation avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l'innovation. Et donc, on avance tous ensemble très bien. C'est dommage que pour des questions d'organisation nationale et de politique nationale que je remets pas en cause, qui fait aussi la force d'un organisme comme le CNRS, on ne puisse pas. C'était le début de notre intervention, ne puisse pas faire des expérimentations qui fonctionnent sur le terrain parce qu'il y a une politique nationale.
Alors ça a été évoqué, cette tension entre le cadre national et le cadre local. C'est une tension dans tous les secteurs de la recherche, tout compte fait, hein, sur les stratégies scientifiques d'établissement ou pas d'ailleurs, les stratégies des organismes, le PIA, l'ANR, etc. Quel nouvel équilibre, à partir du moment où le président de la République m'a dit on va faire des universités le centre de gravité du système, quelles conséquences ça peut avoir justement? Je vois, parce que l'horloge tourne, mais terminer sur un sujet peut-être plus politique, pas au sens péjoratif pour ce qui a été dit avant, hein, mais voilà, il y a quand même un contexte et une ligne directrice qui a été donnée sur le recentrage sur les universités. J'ai pas l'impression que ça va changer, hein, ça, quelles que soient les majorités.
Oui, alors juste un petit mot quand même. En lisant les différentes déclarations et notamment les déclarations du président de la République et les éclaircissements qu'il a pu procéder ici ou là, le message il n'est pas univoque, il n'est pas uniforme. Et notamment, on a bien voulu retenir souvent que le président de la République avait, avait dit que les universités devaient se voir confier l'intégralité de la gestion des laboratoires de recherche et que les ONR, dont le CNRS, devaient devenir des agences de moyens. En fait, il a dit un peu plus que ça, chargé du portage et de la mise en œuvre des politiques stratégiques nationales de recherche, dans la droite ligne de ce qui est fait pour les PEPR, pour lequel le CNRS est, dans 75% des cas, pilote ou copilote. Et ça ne veut pas dire que le CNRS est du coup dégagé de sa mission d'opérateur, pouvant aller ou pas jusqu'à la gestion. Donc je pense qu'on est sur un message un petit peu plus complet que celui qu'on a voulu peut-être en tenir parfois et qui a pu effrayer ici ou là. Donc il y a encore des choses qui sont ouvertes, mais rien n'est fermé, quoi. C'est ça la question.
Oui, mais quels que soient les aléas, la tension cadre national, organisme national et opérateur local, et c'est pas péjoratif de dire ça, elle existe. Enfin, bon, là il y a un exemple, mais c'est vrai que c'est une tension du système qui est quand même un peu particulière à notre pays, me semble-t-il. Hein. Un peu.
Là-dessus, un commentaire. Alors, c'est vrai que...
Alors, notre grand témoin historique, Michel.
Non, mais si tu veux, c'est vrai que quand le président de la République déclare que les universités doivent être le barycentre, c'est une notion mathématique intéressante, le barycentre, on sait comment ça se calcule, mais dans un système et dans l'ESR tel qu'il est, disons que la notion va demander à être un peu explicitée, donc avant d'en voir quelles sont concrètement les conséquences. Et quand on regarde, j'allais dire, les éléments du discours qui tournent autour de cette idée de barycentre, et dans le débat tel qu'il a été initié dans la dernière période, tout tourne autour de la capacité de gestion des unités de recherche. La capacité de gestion des unités de recherche. Moi, je dis et je prétends que gérer des unités de recherche est un métier basique sur les fonctions nominales, sur les fonctions standards, et que ça n'a sur le fond, dès lors que c'est correctement fait, que la qualité de service est garantie, qu'elle est délivrée, ça n'a aucun caractère stratégique, d'aucune sorte. C'est pas ça qui fait une politique scientifique. C'est pas d'être capable de gérer une unité de recherche qui fait de toi un opérateur de recherche capable de programmer, de faire de l'animation scientifique, qui est un autre métier que les établissements nationaux de recherche exercent, et que pour le coup, là-dessus, Barycentre, s'il s'agit de dire que c'est sur la gestion des unités, je me dis que moi, dans le cadre d'une expérimentation bien comprise entre opérateurs, départements nationaux de recherche et certaines universités, il n'y a aucune raison, dans le cadre d'un accord global, tel que le rapport d'Aubert le posait, il n'y a aucune raison de ne pas imaginer qu'il y ait une bonne répartition des fonctions sur la gestion des unités, dès lors que ça n'a pas en vérité d'enjeu. Dès lors que les problèmes politiques et stratégiques sont posés et réglés, il n'y a pas sur le fond d'enjeu. Franchement, il n'y a pas d'enjeu. Après, il y a des sujets qui sont, sur le fond, impartageables. La politique de ressources humaines, par exemple, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Nos établissements, que ce soit les universités ou que ce soit les ONR, sont en fait des industries de main-d'œuvre. Le cœur stratégique de notre mandat, c'est de gérer dans la durée, de renouveler dans la durée de la compétence. C'est au cœur de la stratégie scientifique, la politique de RH. Et ça, demander de partager ça, c'est compliqué. Partager la gestion des carrières ou des éléments, ça franchement, on peut le faire, c'est pas compliqué. Mais partager la politique RH, ça c'est beaucoup plus compliqué. Ça suppose un accord d'une autre nature. Et donc cet accord d'une autre nature, pour moi, il ne peut émerger qu'entre opérateurs autonomes et volontaires pour qu'ils le construisent ensemble, selon un schéma qu'ils décident ensemble et avec des périmètres qu'ils mettent sur la table parce qu'ils se sont mis d'accord dans une cartographie que ça pouvait être fait comme ça. Et pour le coup, on pourrait imaginer, par rapport à la complexité d'un système universitaire dans lequel plusieurs métiers sont à gérer, alors que les ONR gèrent un seul métier et qu'ils ont un peu plus pris d'avance là-dessus parce que c'était le cœur de métier depuis le départ. Pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas un schéma dans lequel toutes les universités délèguent toute la gestion des unités de recherche aux ONR qui savent le faire depuis longtemps et qu'elles prennent, elles, en gestion toute la totalité du reste parce que là, elles ont une vraie spécialité que les ONR n'ont pas. S'il y a un accord stratégique et politique qui porte et qui sous-tend ça, quel est l'enjeu, sur le fond? Quand on parle de ça, en vérité, on ne parle pas du vrai problème. On contourne le sujet, encore une fois. Le sujet, il est dans la posture politique et scientifique des institutions. Veut-on ou pas qu'il y ait encore des organismes nationaux de recherche dans un pays comme le nôtre? C'est ça la grande question. Et ben voilà, selon comment on l'aborde, on répond différemment. Donc, le barycentre, et ben on va observer pour voir comment il se déplace.
Il y a une question, je vois l'horloge tourner, hein, donc, mais que on avait évoqué avec Jérôme Paré en préparant cette table ronde, c'est l'articulation formation-recherche. Or, tout le monde le sait, on a en France un affaiblissement historique des effectifs en doctorat. C'est un constat à l'inverse de tous les pays comparables. D'où le problème du vivier, qui n'est plus alimenté comme tout le monde le voyait par les classes prépa, etc. Le problème des viviers de master, de l'investissement des enseignants-chercheurs et des chercheurs en master, qui implique quand même, il me semble, hein, vu de l'extérieur, à minima, une stratégie de GRH partagée, pas au sens technique, carrière, etc. Donc ça, c'est quand même un problème qui est un problème stratégique pour notre pays, qui fait que organismes, quels qu'ils soient, et universités, doivent converger à un autre niveau aujourd'hui. Il y a une situation de crise. Alors, on dit toujours, ça a été évoqué, que c'est dans les crises qu'on progresse. Mais il y a vraiment un signal d'alarme. Hein. Je me souviens en avoir discuté à l'époque, en 2017, avec Philippe Baptiste, qui me disait « Non, mais il n'y a pas de problème sur le doctorat. Enfin, » Il n'avait pas vu les chiffres qui déjà émergeaient de l'affaiblissement des effectifs. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience un peu tardive. J'ai l'impression que s'il n'y a pas vraiment un sursaut, notre pays pourrait le payer quand même assez cher.
Et c'est pour ça que je pense, dans nos fonctions à nous de DGS, il est très important d'investir ce champ de la recherche, parce que la recherche, c'est pas juste le laboratoire, c'est dès le master, c'est l'articulation, c'est le continuum master-doctorat. Et par ailleurs, on voit que l'État, ces derniers mois, articule la formation et la recherche en lançant des appels à projets, les compétences, les fameux appels compétences et métiers d'avenir, qui sont complètement adossés aux stratégies nationales de recherche.
Est-ce que c'est un ajustement
logique? Découpler les deux, c'est pas envisageable aujourd'hui. Et je pense qu'on a vraiment extrêmement important, quelle que soit l'histoire, la structuration de nos établissements, qu'on cherche tous à bien comprendre et à bien se positionner sur ce sujet-là. Et pour venir après 20 ans de CNRS à l'université, donc avec des connaissances et des compétences limitées en matière de formation, ça s'apprend. Tant qu'on a envie d'apprendre, envie d'innover, envie de progresser, c'est possible. Et je pense que voilà, il faut ce champ-là de la recherche, il faut battre en brèche les constats qui étaient dans le rapport qui est relativement récent. Je pense qu'assez rapidement, il faut qu'on tous ensemble, on investisse ce champ-là.
Pourquoi ils ont baissé le nombre de doctorants? Tu dis que c'est une crise, mais crise de quoi? Non mais je sais pas. On est passé, voilà, on dit qu'on va passer à 52.
On regardait par rapport aux États-Unis. Enfin, moi, je n'ai pas
oui, non, mais...
le même chiffre, le nombre par habitant de production de doctorants. Et bon, non, mais voilà, on peut débattre. Est-ce que c'est débat. Utile d'avoir des doctorants? Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ça peut faire l'objet d'un autre séminaire éventuellement.
Surtout que ça présuppose que le chiffre initial était le bon. Ce que vous dites là.
Oui, mais l'affaiblissement qui a été attribué au SHS, au fait que les SHS, la durée de la thèse, sont invalidés oui. par les chiffres du ministère.
Il a été mesuré dans la durée par le service du ministère, et même s'il se trompe régulièrement, il se trompe tout le temps de la même manière. Mais... donc le tendanciel est bon. Non,
mais... il me semble quand même que dans les labos, il y a quand même une réflexion sur les doctorants en ce moment, enfin sur le nombre de doctorants. Enfin, il me semble, c'est pas moi qui sors ça de mon chapeau. Hein.
Non, c'est, le fait de dire qu'il baisse et que c'est. Que c'est un drame, ça suppose ça. Que le chiffre initial était un chiffre...
Moins de chômeurs.
Enfin, je sais pas. J'en sais rien.
Non, mais il faut lire l'enquête du Réseau national des écoles doctorales. C'est eux qui concourent à la production scientifique de notre pays, quand même, les doctorants, globalement. Faut la lire, cette enquête. Elle est quand même... elle bat en brèche pas mal d'idées reçues. Mais je disais ça par rapport au lien recherche-formation. Hein. On peut pas vivre chacun dans son monde, quoi, dans ce secteur. Donc voilà, c'était... Ouais.
Il y a financement.
Après.
Alexa Rouen, Université d'Angers. On peut décloisonner ce sujet-là. Enfin, nous, on l'a fait avec l'INRAE, tout simplement en signant, pas tout simplement, non, c'est-à-dire que ce n'était pas simple, en signant une convention d'objectifs et moyens, et où le préambule de cette convention d'objectifs et moyens est bien justement la question du vivier. Une baisse qu'on a constatée en particulier sur le végétal à Angers depuis bien des années sur le vivier de doctorants.
Donc, vous pouvez parler plus fort, on vous entend pas.
Ce que je veux dire par là, c'est que la question de la formation à la recherche par la recherche peut être aussi une préoccupation d'un organisme national de recherche et pas simplement celle des universités. Et la question de la recherche est aussi une préoccupation principale des universités, c'est évident. Et donc, du coup, on a réussi à défaut d'un cadre national, a signé une convention d'objectifs et moyens simplement sur notre territoire et sur cette question-là de la formation à la recherche par la recherche. Donc voilà, je crois à l'expérimentation territoriale et surtout quand deux partenaires s'entendent sur un objectif commun, à pouvoir mettre en place des moyens sur 5 ans pour pouvoir résorber ce constat de vivier scientifique.
Bien, normalement, Frédéric, nous sommes arrivés... le mot de conclusion, c'est quand même pour le président de l'association, normalement. C'est pas que je prends de cours. Mais d'abord, je voudrais remercier quand même nos intervenants hein, pour tous ces éclairages. Bon, on sait que c'est un débat qui va continuer, évidemment, mais il y a quand même pas mal d'éclaircissements, je trouve, sur certains sujets. En tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a des axes de progression très concrets qui ne devraient pas susciter de polémiques inutiles, dont ce milieu est friand, quand même. Bon, on s'aime, enfin, c'est le milieu universitaire, donc il est comme ça. Mais il y a ce que vous avez listé, c'est quand même des axes très, très concrets. Alors, les petits ruisseaux font quand même les grandes rivières. Faut le voir positivement.
De façon très cursive, je vais m'associer à tes remerciements, hein, Jean-Michel, pour les intervenants et l'intervenante, malheureusement.
La caution.
Je crois qu'on a abordé tout au long de la journée, notamment cet après-midi, tu viens de le dire aussi, des sujets, des problématiques, je crois par des aspects très très concrets. Bon, voilà, on a évoqué des pistes. Ce matin, c'était aussi, on a vu les choses un peu différemment au travers de la Cour des comptes et puis de la posture des évaluateurs. Je trouve que c'était extrêmement riche, extrêmement intéressant. Voilà, donc plus globalement par rapport à la table ronde de cet après-midi sur la recherche, je reprends un peu les mots et les propos de Pascal Aimé devant moi. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de sujets qui ont été traités. On a parlé du rapport d'Aubert, hein, ça rajeunit pas. On a parlé d'un certain nombre d'études de l'inspection ou autres sur des sujets. Et on voit que finalement, il y a une forme de temps long hein, quand même dans le domaine de la recherche. Et malheureusement, un des intervenants l'évoquait, sur des sujets, et c'est une conviction personnelle aussi, je partage totalement ce que vous avez dit, pourtant je suis DGS, hein, sur des sujets de stricte et pure gestion,
caractère. Qui non, mais alors, là, je suis d'accord avec vous, aucun caractère stratégique. C'est pas ça le sujet d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, quand on parle de mixité de l'activité de recherche, et je crois que malheureusement, là encore, ça a été évoqué sur Strasbourg, mais sur d'autres sites, on pourrait aller beaucoup plus rapidement sur certains sujets de partage en termes de gestion. Bon, voilà, ça, on n'a pas de baguette magique les uns et les autres. La preuve en est, on est en train de ressasser, de rabâcher des choses qui ont été dites, redites depuis un certain nombre d'années. C'est bien dommage. Par contre, je crois que c'est ce qui a été évoqué aussi, c'est Laurent, tu en parlais, c'est de savoir finalement, indépendamment de ce qu'on a pu comprendre de la pensée de notre nouveau président, de savoir quelle sera et quelle pourrait être l'évolution du rôle des organismes nationaux de recherche. Et tu as parfaitement raison. Je crois qu'il est un peu réducteur de penser qu'il pourrait se transformer en simple agence de moyens. Je crois que c'est pas le sujet non plus du tout. D'ailleurs, les agences de moyens, faut savoir de quoi on parle quand on regarde le monde anglo-saxon et tout particulièrement nord-américain. Voilà, ça existe aussi en partie sous des formes différentes. Ce ne sont pas que de simples agences de moyens à côté de ce qu'on connaît des universités américaines. Voilà. En tous les cas, un grand merci aux intervenants, un grand merci à Jean-Michel. Cécile, notre chargée de mission, est partie, et à l'ensemble des collègues pour avoir assisté très nombreux. Vraiment, je suis vraiment tout à fait satisfait, voilà, de l'audience qu'on peut avoir à l'occasion de ces journées. Voilà, et je souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, hein, dans l'attente, après tout. Merci.
Ce qu'il frappe sur ces sujets-là, c'est que quand on les interroge spontanément, ils revendiquent pas grand chose.
Ouais, ouais.
Allez, bon. Ouais. Je te rends ta dépêche parce que. Oui, il faudrait. Ou alors, tu vois, il aurait fallu que ce soit le ministère qui le décide. Là, tout le monde aurait pu dire c'est la faute à la ministre. Non, mais là. Traitons les vraies questions. Je pense que là, bon.
Le sujet, franchement, je pense pas qu'il y ait une université qui réclame le rattachement de l'agence à
l'université. La fonction de programmation, elle est pas en débat.
À partir du moment où une université gère des programmes de recherche,
aujourd'hui, c'est rien de ça. En tout cas, pour les grandes universités décédées, la mise à niveau des systèmes de la capacité de gestion, elle est faite. Et pour le moment, ce que tu avais fait à l'inspection, et même au moment du lancement de la RGPD avec l'enquête sur les fonctions, ça a été. Après, ça prospérait. Se référencer Mais moi, je trouve que la nouvelle de tout le garçon est très bien.
Des organismes centrés sur les problématiques nationales, les stratégies, etc. Mais le jour où le niveau de confiance atteint par l'université de Bordeaux et par le CNRS le permet, pourquoi l'université ne devient pas naturellement l'opérateur du CNRS? En matière d'édition, il n'y a pas d'enjeu, dès lors que tu es d'accord.
Mais même au niveau. À partir du moment où ils sont d'accord sur la politique scientifique, quelle est la plus-value de l'Institut,
voire même de l'Institut?
Dans le recrutement du chargé de recherche X ou Y, avec des règles d'ailleurs qui font qu'il n'y a aucune garantie de ne pas recruter à Bordeaux, et peut-être qu'il va s'en trouver. Moi, je pense qu'on pourrait aller beaucoup
plus. C'est pas l'objet d'un enjeu, c'est une question stratégique.
À partir du moment où Bordeaux, on aurait compris ce que Bordeaux peut amener pour la mise en œuvre de la politique portée par l'Institut des sciences de la vie du César, est-ce que vraiment le CNRS doit encore faire la distribution des moyens entre les cinq unités sciences de la vie qu'il a à Bordeaux?
Ça n'a aucun intérêt. Du moment qu'il garde les fonctions de programmation au niveau national et les fonctions incitatives.
Et qu'il garde la possibilité de dire à Bordeaux, stop ce que vous faites, je trouve que c'est pour autant.
Et plutôt que mutualiser, c'est pour ça qu'à mon avis, le transfert pur et simple de la totalité de l'activité, c'est ça qui est le système le plus simple, il faut qu'un opérateur l'en reprenne pleinement. L'idée qu'il y en ait un seul qui le fasse, c'est à mon avis la méthode la plus simple. Sur la gestion, c'est la méthode la plus simple.
Et même sur la... moi, je vais même jusqu'à la répartition annuelle des crédits entre les labos.
Parce que franchement, est-ce qu'on répartit ?
Oui, et puis alors, moi je l'ai vu, le mécanisme de répartition, justement ça fonctionne par la règle 3. J'ai essayé de comprendre comment les instituts répartissaient entre les labos. Comment le même institut répartissait entre ces différents labos. Je n'ai jamais rien pensé.
Eh bien, bonne chance, parce que vous venez tous, c'est vrai qu'il y a Strasbourg pour le
coup. Oui, mais il y a une rétrice.
Au niveau de celle du ministre. Mais chacun ses difficultés, il faut qu'on se mette sur ses avantages. Et vous en avez de bons. Et
moi, la
façon
la
principal.
C'est ça. Nos échanges avec la tutelle.
Du tel, on n'en parle même pas, mais pourquoi le CNRS ne ferait pas ce qu'il fait quand on voit ce que...
C'est ça.